Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui on est avec Nesrine Slaoui et on boit un jus de... Alors moi je bois un jus de clémentine, Nesrine boit de l'eau et Camille boit de la citronnade.
Ouais.
Ça toujours. Intéresse tout le monde ici?
Ouais, si moi ça m'intéresse, oui, c'est l'été. C'est
en fait on le dit assez fort pour qu'au bout d'un moment il y a un sponsor qui se dise
ouais,
ah, il y a moyen de placer un truc, donc...
Ouais.
Bah donc payez-nous.
Alors, je veux
et
dire,
envoyez-nous des jus.
C'est le titre de nos podcasts. Ouais. Hein, on se tient au jus, on boit un jus à chaque fois au
c'est
début.
C'est incroyable voilà. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait dit hey,
il y a pas quelqu'un.
Buvez donc ça.
Bah oui.
Voilà. Salut Nesrine, ça va?
Salut, ça va et vous?
Oui, oui, ça va.
Merci beaucoup de m'accueillir, enfin de m'accueillir chez toi Justine.
Oui.
Je suis contente que tu sois là aussi Camille.
Merci.
Ben, avec plaisir.
J'ai un peu peur parce que du coup je ne sais pas de quoi on va parler.
T'inquiète.
Qu'est-ce que vous avez prévu comme question? Mais
t'inquiète, ça va très très bien. Ça va bien se passer comme dirait notre ami. Vous avez la ref.
Ouais,
ça va bien
la triste, triste ref masculiniste,
ouais, c'est ça.
Ça.
Du coup, avant toute chose, on va te présenter à nos auditeuristes grâce à une, je sais toujours pas.
Ouais, je sais que tu sais pas parce que tu dis toujours une et c'est un.
Et c'est un, c'est dingue. Grâce à un acrostiche, vas-y.
N comme naturel et accessible, les premiers adjectifs qui nous viennent quand on la rencontre, vraiment la pote qu'on veut tous et toutes avoir.
E comme engagé à fond dans les luttes de classe, raciale et féministe.
S comme Sciences Po, l'école qui l'a formée au métier de journaliste.
R comme RMC, LCI, CNews, Bondy Blog, France Télévisions ou encore Loopsider, la liste des médias avec lesquels elle a travaillé est longue.
I comme illégitime, le titre de son premier ouvrage paru en 2021 dans lequel elle raconte son parcours en tant qu'enfant d'immigré.
N comme n'a peur de rien, en tout cas pas de demander à Emmanuel Macron droit dans les yeux s'il compte s'engager à ne plus avoir dans son gouvernement des personnes accusées d'agression sexuelle.
E comme espoir, c'est ce qu'on ressent quand on la voit en conférence ou dans ses interviews.
Interview,
ouais. Elle lâche rien et met son engagement au-dessus de tout.
Oh,
et ça donne Nesrine.
Ça. Et ça donne Nesrine, voilà.
Je suis très touchée, en plus, c'est fou comme ça résume plutôt bien. J'ai plus rien à dire, du coup.
Ah, allez, bye.
Tout y est, voilà. Tout...
Merci, bye.
Merci pour le livre, merci pour tout, tout est dedans.
Bah, c'est on essaye de brosser un portrait un petit peu
complet.
Général, et ensuite on revient. Et là, la chose sur laquelle on a envie de revenir, c'est ce dont d'ailleurs on parlait en off avant le podcast. Mais donc, l'interview
de Macron.
Macron.
Vous voulez savoir quoi?
La fameuse question.
Parce que j'en ai jamais parlé.
J'en
ai encore jamais parlé, à part sur mon Instagram.
Pourquoi elle est sortie quand?
Elle est sortie entre les deux tours.
C'était entre les deux tours, ouais.
Je sais plus la date exacte, je pense qu'on peut la retrouver. C'est vraiment 4 jours avant le deuxième tour.
Donc quand vous écoutez, c'était il y a quelques mois, et c'est effectivement cet extrait particulièrement de cette interview de Bouscapé, donc qui est... qui a fait le buzz, enfin qui a fait le tour du web et dans laquelle tu poses une question, comme on disait dans l'acrostiche à Macron, tu lui demandes s'il peut tenir une promesse et tu te prends un vent d'ailleurs, il dit non.
Il esquive, qu'est-ce qu'il va dire?
Mais il le dit avec une... Moi ça m'a quand même surprise sur le moment parce que je pensais pas qu'il allait être aussi cash, parce que je sais que c'est quelqu'un, et on l'a vu tout le long de l'interview, c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien
l'oratoire, voilà. La rhétorique.
Et il aurait pu dire non sans dire non, vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu tourner en disant, moi ce à quoi je m'attendais quand j'ai préparé la question, c'est qu'il me dise la justice l'a innocenté, ou qu'il me trouve quelque chose lié avec la justice, ou avec les dernières avancées sur l'affaire plutôt. Et en fait je me rends compte que face à moi, et déjà en plus il a un regard très affirmé quand il dit, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à répondre non. Et ça m'a surprise parce que je me suis dit, il y avait quand même...
Tu pensais le déstabiliser
et surtout par rapport à tout ce qu'il avait dit juste avant, vous rappelez, en début de la campagne sur les femmes, il a commencé à lancer des trucs sur l'endométriose, il était parti essayer de séduire les femmes qui portent le voile, voilà, il commençait à essayer de prendre un peu nos sujets dans la main, mais on voyait bien que c'était très glissant parce qu'il n'a pas du tout assumé ça face à moi, et en plus... Moi, il faut savoir que quand je prépare cette interview, c'est ma partie. C'est-à-dire que pour moi, ça va être le moment où tout ce que j'ai vu, observé en tant que féministe, tous les comptes que j'ai suivis, que ce soit le vôtre, j'en ai suivi plein d'autres pendant ces 5 ans où j'ai vu en fait, notre colère, je me suis dit, en fait, mon seul rôle, parce que je savais très bien qu'il n'allait pas répondre et qu'il n'allait pas jouer le jeu d'être en notre faveur, je me suis dit, ton seul rôle, c'est de faire remonter en fait, les revendications. Voilà, exactement. Et tant pis si tu n'as pas la réponse que tu voulais. Tant pis s'il botte en touche. En plus, moi, j'étais un peu effrayée quand j'ai lancé ce sujet parce que je me suis dit, il y a trop de choses sur lesquelles il faut que je sois vigilante. Que ce soit, par exemple, le droit à la présomption d'innocence, enfin, ce qui n'est pas un droit, mais la présomption d'innocence, toutes ces choses-là. Je me suis dit, il faut que je sois vraiment très vigilante parce qu'il faut que j'arrive à montrer qu'il a tort, en fait. Ouais. Et c'est difficile de montrer qu'un président
surtout,
a tort sur un sujet.
Il faut le forcer à ce qu'il réponde à la question et pas à ce qu'il te reprenne sur un truc que toi, t'aurais mal dit ou mal formulé ou qui serait sujet à débat. Ça t'oblige à avoir une question ciselante qui fait qu'il n'a pas le choix de répondre. Et il ne peut pas prendre la tangente, quoi.
Et surtout qu'on avait très peu de temps. En fait, nous, quand on... Donc, en fait, c'est pour expliquer un peu le processus, c'est l'équipe de Macron, donc l'équipe de campagne qui contacte Bouscapé en leur disant « Est-ce qu'on peut faire une interview avec vous ?»
Ah oui, c'était de leur...
Voilà, c'était de leur...
Ils voulaient vraiment aller chercher les jeunes.
Ouais. Exactement, ouais. Et Bouscapé a été très intelligent. Enfin, en tout cas, Ahmad, qui est le fondateur et le boss de toute l'équipe, lui, il a compris qu'il y avait justement ce jeu de séduction qui allait se mettre en place, et il s'est dit ok, on va accepter à seule condition, donc on parle pas de rap et on leur va parler à eux, hein, on lui dit à nous, on parle pas de rap et on fait une vraie interview sur les sujets qui intéressent les jeunes des quartiers et les jeunes au sens large. Donc nous on a voulu cibler aussi sur l'islamophobie parce que c'était très important d'en parler, on n'avait pas parlé encore médiatiquement. Et donc voilà, donc Bouscapé, quand il me contacte, alors moi déjà, il faut savoir qu'il est 20h, je reçois un appel de Ahmad. On se connaissait, mais pas plus que ça. Donc j'avais pas son numéro enregistré. Il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu penses si Bouscapé fait l'interview de Macron ? Je vous ai dit, bah, foncez. Alors moi, il faut savoir que je suis, justement par rapport à mon livre illégitime, moi j'ai déconstruit tout dans ma tête en ce qui concerne la légitimité. Pour moi, tout le monde est légitime à faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire une interview de Macron, n'importe qui peut faire. Vraiment, c'est un truc, c'est pas un. C'est pas une fausseté sociologique, en fait, je dis pas ça en mode on est tous égaux dans la vie, on a tous les mêmes chances, c'est plutôt s'il y a une opportunité qui s'ouvre, je pense que tout le monde peut la prendre, parce qu'en fait, elles sont très rares, et il faut savoir les utiliser, il faut les utiliser à notre avantage. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que la première question d'Ahmad, en fait, c'était est-ce que tu dirais à Bouscapé, est-ce que tu trouverais ça bien que Bouscapé fasse interview ? Donc moi, je réponds hyper joué, mais oui, faites-la, c'est super, allez-y et tout, c'est le moment de poser des questions. Il me dit, bah du coup, viens la faire avec nous. Elle me dit, je croyais que tu voulais juste un avis extérieur. Mais en fait, finalement, j'ai pas hésité longtemps parce que j'ai adoré bosser avec eux en vrai, parce que je les connaissais pas vraiment en tant qu'équipe. C'est un média que je suivais et ils ont été très très gentils avec moi. Je sais que ça paraît bête comme ça, mais ils m'ont pas mis plus de pression que ça. Ils m'ont plutôt fait totalement confiance. Et on a bossé en équipe, on a fait la liste des questions ensemble, on s'est trouvé un ordre bien précis, etc. Et franchement, je me suis sentie très à l'aise de bosser avec eux. Donc ça m'a mis en confiance parce que je me suis dit qu'importe en face si j'ai le président ou peu importe. Mon équipe, elle est avec moi et elle est derrière moi. Et dans la vidéo, on nous voit que tous les deux, mais en fait, avec Kersh, donc Kersh qui était mon duo pendant l'interview. Je rigole parce qu'on a beaucoup rigolé aussi pendant la préparation. Et en fait, dans la salle, on voit que donc nous deux et Macron, mais en réalité, je crois qu'il y a entre 20 et 30 personnes, entre l'équipe de Bouscapé, l'équipe de com de Macron, on est entouré en fait de gens. Et d'ailleurs, c'est pour l'anecdote, c'est que dès qu'on commence l'interview, on est déjà en retard. Enfin, Macron est en retard. D'un peu plus d'une heure, il me semble. Donc nous, on a attendu. Moi, franchement, à ce moment-là, j'étais très stressée dans le bureau. Et je sais que c'est un peu leur but aussi aux hommes politiques. C'est qu'ils savent que tu rentres dans des périodes de stress quand eux, ils sont en retard et que tu n'as pas d'informations. C'est-à-dire que nous, on ne savait même pas. En fait, on ne savait pas. On avait signé, entre guillemets, parce qu'il n'y avait rien qui avait été signé, mais on s'était mis d'accord pour une interview d'1h30. Donc nous, on avait préparé des questions pour 1h30 d'interview. Donc un volume très important en réalité de questions. Et en fait, on voit que l'heure se décale. On sait qu'après nous, il y a un autre truc. Donc on n'arrive pas à savoir.
Combien de temps vous allez avoir.
Voilà. Et donc, dans quelle mesure on va pouvoir faire crier. Voilà, c'est ça. Et là, on en discute entre nous pendant qu'il n'est pas encore là, mais on en discute et on dit qu'il ne faut pas qu'on sacrifie des questions. Là, il faut que la dernière, moi, je sais que la dernière question, c'était sur le RSA. Il fallait la poser, la question sur le RSA. Tu vois, j'avais vraiment mon schéma en tête et avec Kersh, on était d'accord là-dessus. Et donc, quand il arrive, on comprend qu'on ne va plus avoir 1h30, mais 50 minutes. Et on fait la première partie sur l'islamophobie qui est longue. C'est-à-dire qu'on est assis, Kersh et moi, face à Macron. On voit que... Et en fait, nous, on est un peu... Là, il faut être un peu indulgent avec nous, on était stressés. Je pense qu'on peut le deviner, on est deux jeunes journalistes. Lui, il est plus dans le rap en général, dans les interviews de rappeurs. Moi, j'ai fait des hommes politiques et des femmes politiques avant, mais pas de cette envergure-là en réalité. Donc, on est stressé en début d'interview et on a du mal à le couper tout le temps, ou en tout cas à créer des
poser pas. L'idée,
voilà, parce qu'en plus, il est imposant. Enfin, je pense qu'on comprend que c'est un président. Et puis après, il y a un moment où on est un peu plus à l'aise, notamment sur les violences faites aux femmes, parce que là, c'est mon militantisme, en tout cas, c'est mon féminisme,
moment, là.
Voilà, qui a parlé. Et c'est vrai que je sais qu'une des critiques qu'on nous a faites, c'était de ne pas l'avoir été, pas avoir été assez incisif ou intrusif avec lui. Et en réalité, quand tu es pris par le temps, quand tu es pris par ton stress, quand tu es pris par l'enjeu de tu interviews un président face à l'extrême droite, dans ta tête, tu as tellement de choses qui tournent que, effectivement, quand tu regardes l'interview, tu te dis à ce moment-là, j'aurais pu lui dire ça. Mais en fait, la partie, elle est déjà jouée. Et moi, je suis très fière de cette partie.
C'est déjà
parce que, parce que je trouve que, en fait, tout l'enjeu pour nous, c'était pas d'obtenir des réponses. Les réponses du siècle, c'était pas de le faire changer d'avis, c'était pas que d'un coup il devienne féministe, antiraciste, anti-islamophobie, c'est un président, il a ses opinions, on va pas changer là-dessus. Tout l'enjeu c'était de se dire, notre rôle c'est de poser des questions qu'on n'a jamais posées ailleurs. Ouais. Et c'est un des constats qui a beaucoup été fait sur l'interview, c'est qu'ils ont réussi à faire cette chose-là, c'est-à-dire de poser des questions. Moi j'avais reçu un message de Assa Traoré qui m'avait dit merci parce qu'il s'était jamais exprimé sur Adama, et donc ça m'avait rassurée dans ma position en me disant ok, j'ai fait ce que j'ai pu dans cette situation.
Pour amener des sujets.
Pour amener des sujets, pour faire monter les sujets, en tout cas que les militants féministes antiracistes voulaient faire monter auprès du président de la République.
Ma question, c'est ça, c'est vu que toi, t'es journaliste, t'es plus dans ce milieu-là, donc tu pourras peut-être m'apporter des éléments de réponse, mais pourquoi ils le font pas, les autres? C'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque tous les gens qui sont journalistes aujourd'hui? Alors, il peut y avoir des journalistes. Il y a des journalistes peut-être qui ont des idées de droite, d'extrême droite. Enfin, je veux dire, les journalistes qui se cachent même plus. Mais sinon, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de journalistes aujourd'hui qui ont des idéaux, des envies. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, ils ne posent pas ces questions-là quand ils se retrouvent face à Macron ou d'autres politiques? Toi, quand tu y vas et que tu les poses, est-ce que tu sais que ça va te griller, ou est-ce que tu sais que ça va te griller près de médias avec lesquels, de toute façon, tu veux pas bosser? Enfin,
Moi, c'est ça, c'est que je sais de toute façon que ça me grille auprès des médias qui voudront jamais de moi. Ouais. Donc, en fait, et de toute façon, alors, pour répondre à ta question, je pense que le problème principal du métier de journaliste, en dehors de la précarité, par exemple, c'est les gens ne le savent pas, mais que ce soit surtout dans les chaînes d'information en continu, en fait, on voit les grosses têtes d'affiches. Je sais pas, par exemple, CNews, parce que là, c'est un exemple avec Pascal Praud qui prend beaucoup d'argent, qui est très médiatique, où tous les jours on réagit sur ses propos, et en réalité derrière tu vas trouver des journalistes très précaires, majoritairement, enfin pas majoritairement mais souvent des journalistes racisés, c'est-à-dire tu vas avoir des personnes noires, arabes qui bossent, qui sont des sous-mains et qui sont jamais mis en valeur dans leur travail, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc de précarisation où ceux qui sont visibles, ceux qui gagnent le plus, c'est jamais ceux qui travaillent en cachette et qui préparent les sujets. Donc il y a déjà ce problème-là, et il y a un problème avec le journalisme, enfin en tout cas moi je le considère comme un problème, après chacun le voit comme il le veut, mais c'est la prétendue objectivité et neutralité. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que... Moi, par exemple, je sais que de l'extérieur, je ne suis pas neutre, mais ce n'est pas grave.
Oui, mais demander à un président qui dit que la cause du quinquennat, c'est les femmes, et pointer du doigt que c'est étonnant, du coup, d'avoir un présumé agresseur ou quelqu'un accusé d'agression sexuelle dans son équipe, honnêtement, c'est neutre en vrai. Enfin,
oui,
c'est-à-dire
bien sûr.
Que finalement, c'est neutre, même si nous, en fait, ça peut ne pas l'être dans la tournure de la question, mais c'est des faits.
Parce que
tu accoles deux faits ensemble.
Parce qu'il n'a pas été condamné par la justice.
Bah oui, donc c'est pas
neutre. C'est ça, en fait, le truc, c'est que pour eux, tu l'accuses avant même qu'il y ait une condamnation judiciaire, alors que nous, on sait que la justice ne va jamais en faveur des femmes agressées. Oui,
ce qu'il dit. Ce que répond Emmanuel Macron, c'est non, je ne peux pas faire cette promesse.
Oui, mais
parce
ça n'empêche pas de poser la
présomption
question.
D'innocence.
Oui, ça n'empêche pas de poser la question. Ce qui
non,
se
bien
passe,
sûr.
C'est qu'en vérité, on les confronte assez peu finalement.
Mais du coup, il faut avoir cette lecture féministe quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir, avoir conscience dans ta lecture du monde que les femmes, de toute façon, face à la justice, ne sont en général pas écoutées. Voilà, et surtout pour des accusations de viol ou d'agression sexuelle, c'est des preuves.
Face à un homme puissant.
Voilà, c'est des preuves qui sont compliquées à amener, et c'est surtout que la justice les valide très rarement, et puis il y a la honte, enfin vous connaissez un peu tous les systèmes qui se passent autour de ces accusations là et je pense vraiment qu'il y a une fracture en France, tu vois, il y a une fracture entre une ancienne génération, une ancienne façon de faire qui est très tolérante, que ce soit envers la pédophilie, envers voilà, tu vois, c'est il y a aussi tout un impensé patriarcale, tout un impensé autour de cette violence-là qui fait qu'il y a des gens qui ne voient pas le monde comme ça. Tu vois, c'est en termes de lecture du monde.
Oui, un manque total de remise en question et un confort dans les privilèges. Enfin, voilà, ce qu'on dit tout le temps, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas une question qui se pose. Enfin, tu vois, à mon avis, je pense qu'il y a des journalistes qui sont ancrés dans ces trucs-là et qui pense pas nécessaire de relever.
Mais parce que du coup, sous couvert de neutralité, ces journalistes, ils sont pas non plus neutres, parce qu'en fait, ils ont choisi un camp. Quelque part, quand tu laisses tranquille les gens qui nous dirigent ou les gens puissants, quand tu les laisses tranquilles en ne les questionnant pas sur des sujets qui sont sujets à débat, parce que tu estimes. Enfin, au final, tu as choisi un camp.
Pardon, je t'ai coupé, mais parce que c'est des milieux qui sont fraternels. C'est-à-dire qu'il faut. Par exemple, tu as cité l'école dans laquelle j'ai étudié, Sciences Po, c'est une école qui forme à la fois les hommes politiques et à la fois les journalistes. Ouais, tu vois,
c'est des copains, en fait.
En général, en réalité, tu vois. Et moi, tu vois, aussi à Bouscapé, on leur a reproché plus à eux qu'à moi d'avoir accepté une interview qui venait d'un président. Mais en réalité, il y a combien d'hommes et de femmes politiques qui ne sont pas invités sur des plateaux, mais qui demandent à venir et qui reçoivent des réponses positives. C'est-à-dire que le système politique et le système médiatique fonctionnent main dans la main. C'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Il y a des connivences, il y a des familiarités, c'est le même milieu, ils ont les mêmes intérêts, surtout à un certain stade de pouvoir. Et moi, je pense que je peux me permettre de poser cette question parce que je n'ai pas de pouvoir. C'est-à-dire que je n'ai rien à perdre en termes de pouvoir quand je fais cette question. C'est-à-dire que je peux pas, enfin je suis journaliste indépendante, donc
oui
voilà, à ce moment-là n'appartiens pas à une chaîne, je ne suis pas l'incarnation d'un média à ce moment-là, donc en fait ça me donne aussi la liberté de pouvoir la poser du coup sans rien perdre en réalité, parce que j'ai pas perdu ma place dans un média, alors que si par exemple j'avais travaillé au même moment dans un média, on m'aurait reproché ma non-neutralité, on m'aurait dit c'est une question de féministe quoi, tu vois.
C'est dans les règles entre guillemets journalistiques d'être neutre, les journalistes sont censés être neutres,
objectif. Et en plus,
mais quand tu travailles à l'UMA ou quand tu travailles à Valeurs Actuelles, c'est pas la même chose,
évidemment.
T'es pas neutre,
évidemment.
Il me semble.
Non, mais évidemment, pour moi, c'est un leurre. Parce qu'en fait, pour moi, la neutralité, c'est la validation de la blanchité et du patriarcat. C'est-à-dire que tu es neutre quand tu es blanc.
Et... Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas neutre, puisque
C'est la même définition de l'universel, en fait.
Oui, c'est ça.
Et il y a le livre de Mme Fatou Nyang et Julien Ciodo là-dessus, d'ailleurs, qui en parle très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a le droit à l'universel. C'est-à-dire que moi, de toute façon, j'essaie de le dire mieux. En fait, peu importe comment je formulerai mes questions, mon individu social fait que je ne serai jamais considéré comme neutre par les gens d'en face. C'est-à-dire que même si je pose des questions on va me comparer avec quelqu'un qui est dans ce système depuis longtemps. Pujadas, par exemple, tu vois. Si lui pose des questions et moi, si je pose les mêmes questions, il sera quand même neutre et moi, je le serai jamais.
Mais oui.
C'est-à-dire que...
Lui, il sera journaliste, toi, tu seras une journaliste militante, une journaliste engagée. Ouais, voilà.
Et ça, c'est depuis le début de ma carrière, parce que pourtant, j'ai pas fait des... Tu vois, quand tu as cité les médias dans lesquels je travaillais, au début, j'ai commencé comme tout le monde par faire des sujets. Et puis, vous savez, la fameuse voix, Martin s'est levé à 8h ce matin. Tu vois, j'ai commencé à faire ça dans les chaînes d'infos, comme tous les journalistes télé commencent comme ça. Et j'avais pas forcément d'engagement. Enfin, moi, je l'étais, mais mes sujets ne transparaissaient pas comme ça, tu vois. Et en plus, c'est assez marrant parce que, enfin marrant, je sais pas, mais j'ai commencé du coup à faire des sujets engagés, c'est-à-dire sur sur les enjeux féministes et sur les enjeux antiracistes, notamment quand j'étais chez Loopsider, j'ai commencé à traiter ces sujets-là et on m'a reproché entre guillemets d'être engagée pour faire avancer ma carrière. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est-à-dire que plus tu es reconnu individuellement en tant que journaliste engagé, moins tu as ta place dans les médias. Par exemple, il y a des médias pour qui j'aimerais beaucoup travailler qui ne travailleront jamais avec moi parce que pour eux, j'ai perdu cette neutralité.
Mais tu sais, le truc de la neutralité, je viens de penser, parce que on dit souvent, nous, on déplore, mais c'est un fait que les hommes ont tendance à plus écouter d'autres hommes leur parler, par exemple, de féminisme. Les blancs vont avoir tendance à entendre plus la parole des blancs quand ils vont parler de racisme. Et en fait, je me rends compte que c'est la même chose. C'est-à-dire c'est parce qu'ils considèrent qu'ils sont neutres. C'est-à-dire qu'en fait, un homme qui parle de féminisme va être considéré par l'autre comme quelqu'un de neutre qui lui parle de féminisme. Alors que si moi, je parle de féminisme, je suis pas neutre parce que j'ai
partie prenante.
Si une personne racisée parle de racisme, elle est pas neutre. Si moi, je parle de racisme et je dénonce des choses, là, d'un coup, je deviens neutre.
Alors qu'on pourrait considérer à l'inverse, et c'est ce que dit Rokhaya Diallo ou Kaouta Archi, c'est qu'en fait, à partir du moment où c'est des sujets, par exemple, moi, en tant que femme maghrébine, femme arabe, le vécu des femmes maghrébines et des femmes arabes, je suis plus légitime à le traiter que n'importe qui d'autre qui est en dehors de ça. Et pourtant, si quelqu'un le fait, sa vision sera légitime et neutre, tu vois. Et donc c'est tout un truc qui est très pernicieux parce qu'en fait, du coup, et c'est aussi intéressant, c'est que Quand on parle, par exemple, moi j'ai beaucoup, dans Illégitime, je raconte mon parcours, je raconte le fameux transfu de classe, comme on appelle ça. Moi j'aime pas ce terme, on va pas revenir ici, mais voilà, ça a été classé dans ces livres-là. Et c'est fou parce qu'on a considéré que mon livre était un témoignage et pas forcément une analyse. C'est-à-dire que nous, on a le droit au témoignage et intime, pas à l'expertise sur nos sujets. Et ça, c'est un truc que les féministes.
Que quelqu'un l'expertise derrière.
C'est ça.
Mais non, mais c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire l'intime et politique. Je trouve que c'est là tout le poids de cette phrase. C'est justement parce qu'on nous dit toujours que nos témoignages sont de l'intime et qu'on essaye de scander l'intime est politique. Ouais, et ça. En fait, c'est que ton témoignage est politique d'une certaine manière, puisqu'en fait, c'est pas juste le témoignage de quelqu'un, c'est
on a aussi, enfin on a notre propre réflexion aussi sur ces sujets-là, c'est-à-dire que et elles sont légitimes,
ça apporte forcément une analyse,
bien sûr,
c'est
mais beaucoup mieux que quelqu'un de l'extérieur, c'est-à-dire beaucoup mieux que quelqu'un de l'extérieur,
pitié, oui.
Oui, ça on veut dire tu sais de quoi tu parles quoi, enfin
légèrement.
C'est le écoutons les concernés mais et arrêtons de les trouver partie prenante, enfin, en fait, c'est quand même fou d'arrêter de croire que les autres sont neutres, en fait c'est bizarre.
Et je trouve même que cette question de neutralité, moi elle me gêne en tant qu'empathique. Parce que je me rappelle quand j'ai fait Sciences Po, donc j'ai fait une enquête Sciences Po en collaboration avec Anna Toumazov. Elle avait lancé le hashtag.
C'est toi qui l'as fait aussi.
Moi, j'ai fait l'enquête pour Loupsader. C'est-à-dire que nous, on a lancé le témoignage de Juliette, qui avait tourné partout, où elle expliquait qu'elle avait été violée dans une soirée étudiante.
Ouais.
Et moi, en fait, par exemple, si j'avais été un homme, j'aurais pas fait l'interview comme je l'ai faite. Et si j'avais surtout été en quête de neutralité, j'aurais. Vraiment, cette position de neutralité, moi, vraiment, elle me gêne parce qu'elle dit. Traiter vos sujets sans empathie, traiter les sujets avec froideur.
Mais c'est pas pour ça que tu deviens journaliste en plus.
Bah, ouais, mais en réalité, ça se passe quand même beaucoup comme ça. Je vous donne l'exemple. Donc, moi, je fais Juliette et on essaie de faire ça toutes les deux. C'est-à-dire qu'elle est aussi partie prenante dans ce qu'elle a le droit de dire. Donc, comment ça va être diffusé, c'est normal. Elle parle d'un viol et on sait très bien comment c'est reçu dans le débat public. Donc, moi, mon intérêt, c'est à la fois de publier cette vidéo pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe à Sciences Po, mais c'est pas de la mettre elle en difficulté et en dépression parce qu'elle a fait une vidéo sur internet qui va beaucoup tourner, c'est ça en fait l'enjeu. Et j'ai reçu un message d'elle il y a pas très longtemps, je crois en début d'année, elle m'a dit merci pour ton empathie parce que quand j'ai été interviewée par d'autres médias, on m'a juste traité comme un sujet lambda et puis on m'a jeté le lendemain, tu vois, et puis le lendemain ça va être la pêche je sais pas moi en Bretagne, tu vois. Et je pense que ça c'est en partie à cause, bon, à la fois déjà de l'info en continu, c'est-à-dire de ce besoin d'être toujours informé, donc on passe toujours d'un sujet à un autre, et de cette distance-là, soi-disant, entre le journaliste et son sujet. Le sujet, quand je dis son sujet, c'est le sujet qu'il traite. Donc, moi, je trouve que c'est un vrai problème. C'est pour ça que je peux plus. Enfin, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à travailler dans des chaînes d'info, par exemple, même si j'ai rien contre elles, mais c'est un peu. Moi, je traite des sujets qui m'énervent, en fait, ou qui me touchent, ou qui me blessent. Oui, parce qu'en fait, c'est là où je vais. Parce que c'est des sujets sur lesquels je m'informe déjà. Donc, l'antiracisme et les féministes, notamment, c'est des sujets sur lesquels je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc, j'ai une formation intellectuelle là-dessus qui me permet de les traiter, ces sujets-là. Parce que déjà, j'y suis concernée, je me sens concernée par ça. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut dévaloriser. Je pense que c'est pas parce que je suis touchée par un sujet en tant que journaliste.
Que tu vas moins bien en parler.
Au contraire, peut-être que je vais le faire mieux avec c'est plus sûr. D'empathie.
De toute façon, ça changerait le monde là si tout le monde était d'accord pour dire que les personnes qui vivent des choses, en parleront forcément mieux que ceux qui ne les vivent pas, quoi. C'est trop facile.
Et qu'on arrête de diaboliser la parole agressive. C'est pompe là, ils sont très forts. qu'on arrête de nous diaboliser ou de pointer du doigt quand on a une parole avec trop d'émotion, en fait, c'est surtout pour le coup quand on est des femmes, et encore plus quand on est des femmes racisées, c'est encore accueilli d'une manière avec encore plus de mépris, en fait. Et moi, j'essaye, à ma petite échelle en tout cas, de me rebattre pour qu'on dise « Ah oui, je suis émue, je suis complètement dans l'émotion, et c'est pas un problème, c'est parce que c'est un sujet qui me fait mal au ventre, et je pense que c'est comme ça qu'on peut en parler, et c'est parce que le sujet me fait mal au ventre que je me renseigne, parce qu'en fait c'est sûr que si toi le sujet te fait pas mal au ventre, t'as pas tellement intérêt à écouter des podcasts et à lire des livres dessus, hein. Par contre tu vas donner ton avis, comme ça...
À la volée,
mais il sera neutre, ton avis il sera neutre, alors qu'en fait il sera juste pas éduqué, enfin...
Oui, c'est surtout comme tu vois, c'est fou comme ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est la même chose, tu vois, comme tu disais, des émotions, c'est un truc qu'on reproche aux femmes. C'est comme on dit que la neutralité, elle vient des hommes. Oui. Et pareil, les émotions, c'est féminin.
Ça, c'est
donc en fait,
dès Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle.
Oui, mais c'est ça.
Elle t'explique ça, que le neutre, c'est l'homme. Enfin, et l'autre, nous, on n'est pas neutre.
Hein. C'est ça. Donc moi, j'ai dit, à partir du moment où j'ai compris que je suis une femme arabe, enfin, je le sais depuis quand même pas mal de temps, hein, je commence à avoir cette étiquette.
Bah là, c'est difficile de l'oublier.
De passer à côté. Voilà. Bon. C'est assumé. À partir de ce moment-là, je sais que de toute façon, dans le journalisme, je ne serai jamais vue. Et c'est même fou parce qu'il y en a qui ne me considèrent pas encore comme journaliste. C'est-à-dire qu'on a tendance à nous considérer comme des lanceuses d'alerte. Mmh. Tu vois, je pense notamment à Rokhaya qui a fait un boulot monstrueux ces dernières années et où en fait je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui considèrent que c'est pas une journaliste. Pas, bah non, pas en la dévalorisant, mais en disant que c'est une lanceuse d'alerte, une leaduse d'opinion. Enfin, ouais. On peut appeler ça comme on veut. Mmh. Mais en réalité, il y a plein de journalistes de droite, d'extrême droite, qui sont juste journalistes.
Bah, on considère quand même Zemmour comme un intellectuel penseur alors que le mec dit un ramassis de merde à la seconde. Pas du tout renseignée, et lui il est journaliste, ça se trouve, c'est alors ça. Que pas du tout. Parce que Rokhaya, même, elle est aussi dans les réseaux. Moi, je vois sur Twitter notamment, parfois, dès qu'elle fait, je sais pas, une avant-première ou quoi que ce soit, où elle porte une robe et des bijoux.
C'est hallucinant.
Ah, mais d'accord, ils disent, ah, elle est mannequin. Enfin, c'est d'un coup, ils la considèrent comme une mannequin modèle, enfin, toujours dévalorisée, pour ne surtout jamais dire qu'elle est journaliste, en fait.
Ça, c'est fou, le rapport au corps aussi. Moi, je l'ai eu quelques fois aussi, quand j'ai fait 2-3 avant-premières ou des événements avec Instagram, etc.
T'as plus le droit d'être belle ou d'être...
Ouais, et c'est assez fou, comme pour les femmes racisées. En plus, je viens de faire un TED Talk là-dessus où j'en parle, parce que ça me fait souvent rire. Dès que je fais un truc, moi, c'est-à-dire que mon livre, Sciences Po, dès que je fais un truc, on me dit « Non, mais c'est normal, elle est une rebeu et elle est jolie. » C'est-à-dire que moi, c'est un truc, c'est normal. Elle est rebelle et jolie, c'est écrit qu'elle fasse un livre. Tu sais, moi, je me dis, mais j'essaie de faire le lien encore. Et c'est très compliqué pour nous. Alors déjà, c'est très compliqué pour une femme, en général, peu importe son appartenance ethnique, d'être reconnue comme belle et intelligente. Vous savez, chez nous, c'est une dichotomie, c'est soit t'es belle, voilà.
Bah, nous, on est rarement les deux. Hein, ça,
non, mais c'est fou, comme on veut pas nous reconnaître ça. C'est-à-dire que c'est soit t'es belle...
C'est trop de pouvoir.
Voilà, et exactement. Mmh. C'est que c'est trop de pouvoir dans nos mains. Et c'est pour les femmes racisées, c'est encore plus fou parce qu'en fait, vu qu'on est hyper sexualisé...
Ouais, avec un exotisme supplémentaire.
Voilà. Moi, tu vois, j'ai encore des formes. Tu vois, j'ai de la poitrine, j'ai des hanches, j'ai des fesses. Et je sais que du coup, l'image qu'on projette sur moi, sur mon corps, c'est une image qui est totalement hyper sexualisée. Ouais. Sinon, je réfléchirais pas en permanence de est-ce que quand je fais telle conférence, tel machin, mon comment décolleté, tu vois, c'est un truc qui te passerait totalement à côté. Pourtant, tu sais que quand on est des femmes, donc on est dans l'espace public, dans nos espaces professionnels, on sait que la première chose qui est jugée, c'est nos physiques. Oui. Donc moi, tout ce que je fais, on peut se mettre d'accord quand même qu'écrire un livre, ça n'a absolument rien à voir avec ton jean, ton soutif. Enfin, tu vois, c'est totalement... Il y a rien qui permet de faire un lien entre écrire un livre et ton apparence physique. C'est deux exercices totalement différents. Et pourtant, il y en a un pour certains. Et franchement, dans le TED, j'ai fait une conférence TED où j'analyse un commentaire où j'ai sous une des vidéos pour le Huffington Post sur le livre, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose comme quand est-ce qu'elle va se rendre compte qu'elle est pas intéressante, les gens l'écoutent parce qu'elle est belle. Et c'est très dur parce que en plus c'est vrai qu'il y a un beauty privilege, il a déjà été bien analysé pour les traits qui sont plutôt des traits fins, des traits plutôt caucasiens, etc. Mais pour moi il n'existe pas quand on est une femme racisée, c'est-à-dire que à partir du moment où le beauty privilege quand on est racisé c'est d'être hyper sexualisé, c'est-à-dire de devenir un fantasme orientaliste sur les sites porno, moi j'en veux pas de ce beauty privilege, tu vois, ne me le donnez pas.
En fait il faut juste toujours qu'il trouve une raison à la réussite. En fait quand on n'est pas un homme blanc et qu'on réussit quel que soit le domaine, il faut aller nous trouver une raison de pourquoi on a réussi.
Oui, mais c'est parce
que... Il y a toujours quelque chose. Donc, évidemment, plus tu cumules les oppressions, entre guillemets, ou plus ils vont aller chercher la cause dans cette oppression, dans l'appartenance à une minorité potentielle à laquelle tu... Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que juste, on ne peut pas juste avoir réussi.
Et surtout, c'est un piège. Par exemple...
Et nous, quand on ose dire... Pardon, je finis. Et nous, quand on ose dire qu'un homme blanc réussit peut-être grâce au fait que ce soit un homme blanc, quand on parle du privilège blanc, par exemple... Là, nous, on exagère, on fait de généralité, on diabolise, machin. Mais c'est une plaisanterie, en fait. Pardon, je m'énerve comme
non,
si...
Non, mais t'as raison.
Vous êtes d'accord, mais c'est fou. Fin...
Non, mais t'as raison. C'est très frappant. Je t'ai dit, quand t'es une femme racisée, c'est très, très frappant. Et je voulais dire un truc parce que j'ai oublié. Parce que j'ai été emportée par ce que tu disais. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure.
Oui, nous, on l'a connu à notre échelle de juste meuf blanche sur les réseaux. Enfin, ça nous est venu en pleine gueule. Ça fait longtemps qu'on l'a pas
raconté. On n'a jamais su qu'on était des femmes.
Mais oui, c'est ça. En fait, nous, on est arrivés sur YouTube et on était là. Viens, on fait des trucs drôles et tout. Genre, on fait de l'humour. Enfin, mais je veux dire, on n'a jamais calculé. Ouais, on fait de l'humour, point, genre.
Mais du coup, on a appris qu'on était des femmes.
On a appris qu'on était fort des femmes. Petit à petit. On recevait de plus en plus de commentaires de haine qui nous ramenaient à notre statut de femme, à notre physique, l'humour féminin. Ah, vous faites de l'humour féminin. Et on était là, ah bon ?
Mais même en interview, les journalistes, c'était censé ça. Et du coup, pour des femmes, faire ça. Et du coup, vous êtes féministe. Et du coup, vous êtes des femmes, et femmes. Ah, mais d'accord.
Ça fait quoi d'être des femmes et de faire de l'humour sur Internet ? On était là, ah d'accord. Ah oui, c'est réservé aux hommes. Ah d'accord. Ah, oui, j'avais pas compris. C'était... Vraiment, on s'est pris... une rafale de... Comment dire
haine. Tu découvres, mais...
On a découvert, en fait.
Haine ou pas haine, mais c'est juste, tu découvres à quel point t'es une femme. Mm. Principalement, avant toute chose. Mm. Avant d'être une personne, avant d'être youtubeuse, nous, avant d'être humoriste, avant d'être tout ce qu'on veut, on était d'abord deux femmes. Ouais. On n'était pas une femme, nous. On était deux
en
femmes.
En plus.
Donc ça, parce que les binômes où il y a un homme, mais on était deux meufs.
Ouais, donc deux fois plus insupportable. Et du coup, on a commencé à mener un peu l'enquête derrière nos ordinateurs, à regarder quel type de commentaires recevaient les mecs sur YouTube et quel type de commentaires nous, on recevait. Mais c'était dingue. Enfin, c'était
et d'ailleurs, c'est ça qui nous a rendu. En vrai, c'est vous qui nous avez rendu féministes.
Mais oui, exactement.
Vous nous avez rendu.
Nous, on était
radical. Je te jure, c'est ça qui. Mais c'est vrai, c'est ça qui nous a rendu.
Systématiquement clashé sur notre physique, systématiquement, quel que soit le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est les anti-avortements. Et la réponse, c'était deux gros boudins.
Vous, de toute façon, vous êtes moche, on vous violera
jamais.
En plus,
vous êtes super belle, en plus.
Mais ça fait pas la diff.
Clairement. Non, mais tu sens le seum, quoi. C'est ce que j'ai en train de
dire. Il y avait que deux trucs qui revenaient.
Moi, je vous toucherais pas avec un bâton.
Oui, grave.
Même pas, tu me touches avec ton doigt. Laisse-moi tranquille.
bouge de là. C'était que ça. Alors que sur les contenus des mecs sur YouTube, c'est vraiment sur leur contenu. Oh, la vidéo est pas drôle. Mais jamais de la vie, tu vois un commentaire dire je te touche pas avec un bâton. Enfin, personne.
Ah, Squeezie.
Ouais, exactement. Genre, je pense Squeezie, il a jamais reçu ça. Alors qu'il a genre 15 millions d'abonnés. Et il reçoit pas des trucs sur son physique. À la rigueur, il va recevoir, je sais pas, une fois sur 10 000. Oh, ta nouvelle coupe, elle est moche. Enfin, mais.
Ça devient un même quand c'est eux. Mmh. Mais tu vois, c'est tout ce truc-là. Déjà, tu te rends compte à quel point c'est archaïque en réalité comme façon de penser. Et je pense que c'est lié aussi, parce que ce que vous faites sur Internet, c'est que vous prenez de la place. Dire sur YouTube, vous existez, vous êtes là. C'est ça. Et je pense qu'on a un vrai problème avec les femmes qui prennent de la place.
Ah bah oui.
Pas on, nous, ouais, nous oui, trois, mais je parle de la société. Tu vois, la société, je pense qu'elle a un vrai problème.
Oui, avec les femmes qui réussissent.
Avec les femmes qui prennent la place, qui se font entendre, qui parlent fort. Et surtout, on a un point commun tous les trois, c'est le fait de s'approprier des sujets qui sont à polémique. Parce qu'en fait, il n'y a pas de consensus autour de ces sujets-là. Donc, en réalité, on est clivante. Et on est clivante dans le bon sens pour moi, parce qu'il faut être clivante dans une société, tu vois, qui n'est pas égalitaire. Et en même temps, ça, en fait, le fait d'être clivante, pour certains, c'est vu qu'elles sont agressives, nous aussi, on va être agressives. Parce qu'en fait, pour eux, c'est de l'agression. Moi, je me suis rendu compte, vous savez, je pense que vous aussi, quand je parle, par exemple, de féministes ou d'antiracisme avec des hommes, qu'ils soient blancs ou pas, je me rends compte que pour eux, ils le vivent comme une attaque personnelle.
Pourquoi tu m'agresses?
Bah, bien sûr. Oui. Alors, vraiment, mais en fait, c'est moi qui suis agressée, frère, depuis la nuit des temps. Enfin, tu vois, c'est moi qui...
Ah bah, c'est un classique, ça.
Et c'est encore les hommes racisés le sont aussi. Mm. Mais c'est assez fou de voir que nous, on nous reproche de tout prendre personnellement, alors que c'est en face qu'ils prennent tout personnellement.
Bah, c'est pas pour rien qu'on parle d'une Nottelmann. Enfin,
c'est clairement
ça. Tu parles d'une généralité, d'un problème système, et ils vont te dire « mais moi, mais pas moi ». Et après, nous, par contre, on n'est pas neutre et on parle que de notre petite expérience. Ouais. Non.
Bah, y a pas très longtemps, je traîne sur TikTok et je repère que... Je traîne pas beaucoup sur ce réseau, donc je savais pas trop ce qu'on pouvait faire, mais on peut donc reprendre une vidéo qui existe déjà et réagir en direct sur cette vidéo. Et du coup, je vois des vidéos à nous, à Camille et moi, qui tournent à mort sur TikTok. Je me dis « oulala ». Alors là, dans la majorité des cas où elles sont reprises, à mon avis, ça doit pas être dans le fun. Bref, et je tombe sur un mec qui reprend une de nos vidéos où on remet en question le système dans lequel on dit aux femmes de faire attention à comment elles s'habillent avant de sortir, en leur mettant plein d'injonctions. Alors, t'oublies pas, tu prends un taxi, tu rentres accompagné, tu envoies un texto quand tu rentres.
Tu
laisses pas traîner ton verre. Enfin, tous ces trucs-là, vraiment toutes les précautions que les filles, femmes, doivent prendre avant d'aller en boîte. Alors, ça pourrait être remplacé par un... Enfin, nous, c'est ce qu'on estime, en tout cas. Ça pourrait être remplacé par un « Monsieur, ne viole pas avant de sortir ». Enfin, tu vois, on dirait la même à un garçon, tu vois. Ouais. On remplace tout ça par ça. Bref, et on en a fait une vidéo, voilà, très simple. Je l'ai vu, je crois. Mmh. Et du coup, il y a un mec qui a repris cette vidéo en disant « Bah non, pas moi, en fait ».
Il y a des hommes bien aussi,
si
mais...
Si tu l'as repartagé, je l'ai repartagé. Oui, si, bah pas ça. Moi, en fait. Moi, je me sens agressée, en fait, quand vous dites ça. Donc parce que moi, par exemple, j'ai jamais fait ça. Le mec répète « Moi, je » à peu près 15 fois dans sa réponse. C'est un humoriste en plus, un petit peu connu. Enfin, je suis là. Bon, ça change rien. Ça change rien, peu importe. Mais je veux dire, pour être à ce point-là sûr de ce qu'il avance.
Mais c'est que du coup, en plus, la
non
fin
seulement
de
il est
sa
agressé,
réflexion,
et en plus, mais si t'es pas concerné, pourquoi tu réponds alors?
Et c'est juste le fait de dire, vous desservez votre propos. En fait, en plus, ça va
en
vers
plus,
la condescendance de merde. De bah, c'est sûr que si vous raisonnez comme ça, vous allez pas réussir à ce qu'on soit avec vous, mesdames, pour ce combat. Enfin, tu sais, t'as envie de fermer. En fait, casse-toi, on veut pas de toi dans ce combat, t'as rien compris de toute façon.
Mais en fait, il y a personne qui comprend que c'est tellement grave ce qui se passe. Je pense qu'il y a des femmes qui sont tuées, violées tous les jours, il y a des petites filles qui sont victimes d'inceste. On est quand même dans des faits extrêmes. Je pense que les gens n'ont pas conscience qu'à l'heure actuelle, on devrait être toutes dans la rue. En fait, il y a quelque chose qui retient les femmes. Je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas ce que c'est.
Et on ne nous autorise pas la violence ancestralement. On a du mal. Rien que d'être énervé dans un débat, déjà, les mecs, ils comprennent pas, ils nous disent d'être agressifs. C'est parce qu'on nous refuse le droit à la violence.
Totalement. Complètement. Et la colère.
Ça va
et
bien
la
se passer, colère,
bien sûr.
Et encore plus quand tu es une femme arabe et noire. Mmh. Alors, je ne vous imagine même pas la Angry Black Woman, c'est le fameux préjugé sur la femme noire agressive et dangereuse. Il y a tout un tas de préjugés racistes et dégueulasses là-dessus. Et moi, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait on n'est pas si radical que ça.
Ouais, c'est clair,
parce que,
vraiment, ouais.
Bah, parce que franchement, faire des tweets et des vidéos Insta,
on fait
et
des
TikTok,
vidéos drôles, drôles en plus parfois.
Ouais, c'est ça. Où le but c'est de dire les gars, on est agressés, harcelés, parfois violés depuis qu'on est petite. Il s'agirait de changer ce système. Enfin, je sais pas. À un moment donné, si les hommes étaient victimes de ceux dont on est victime, la rue la quitterait pas et rien ne bougerait tant qu'il y aurait pas des nouvelles lois et de nouvelles sécurités. Donc je pense que les gens ne se rendent... enfin je pense que nous on a conscience parce que une fois que tu c'est ce
t'as
qui est
dedans,
ouais franchement quand tu t'intéresses vraiment au féminisme, tu lis des livres et que tu fais moi par exemple le podcast de Charlotte sur l'inceste de Louis Média ou peut-être une nuit c'est un podcast moi où j'avais pas en fait parce que je me rendais pas compte que l'inceste c'était aussi gros. Elle dit je crois que c'est je veux pas dire de bêtises je crois que c'est un enfant sur 6 je crois
ça me donne pas.
Quelque chose comme ça, je veux pas dire de bêtises donc vérifier l'info sinon couper l'info dans le podcast mais voilà elle dit qu'en tout cas dans une classe dans une classe de primaire ou de collège il y a au moins 2-3 enfants qui sont victimes d'inceste dans leur famille et j'avais pas fait le lien avec le patriarcat, j'avais pas fait le lien et c'est grâce à elle que je l'ai fait à ce moment-là et j'ai lu le livre en plus qu'elle avait conseillé en me disant qu'en fait il y a une domination des corps qui va en fait de toute façon c'est les hommes qui en sont au sommet tu vois et c'est des hommes blancs qui en sont racisés ils dominent tous les corps tu vois ils dominent les corps des racisés des hommes racisés ils dominent le corps des femmes blanches ou racisées des enfants tu vois il y a cette violence
des animaux pour aller plus loin encore mais
totalement
il y a ce
comme tu disais cet accord pour eux le droit à la violence et je pense que vraiment les gens ne se rendent pas compte qu'on n'est pas si radical que ça. Parce que franchement, si on était radical, on ne ferait pas des podcasts assis dans un salon où on débattrait de ce qu'on
peut... Qui seront écoutés par des femmes qui sont déjà potentiellement d'accord
c'est
avec
ça.
Nous. On vous le mettrait déjà, on vous ferait des trucs de torture, on vous mettrait dans des cellules, on mettrait nos podcasts là, en boucle, tu sais, genre pendant des heures avec des images, tu sais, comme quoi ils font du lavage de cerveau et
ça
tout.
Ça pourrait être une bête d'action de mettre des enceintes
jure, des écrans, des enceintes.
Et de diffuser des trucs comme ça là.
Que des podcasts, des trucs... Mais parce que je suis d'accord, on est tellement calme. On est tellement calme.
Et tellement dans la pédagogie.
On est tellement docile. Ouais. Et nous, en vrai, quand on fait une marche féministe et que les gens ils se félicitent parce que c'était trop pacifique et que du coup, tout le monde était content et qu'à 18h, à la fin de la marche, il n'y a pas de violence, il n'y a rien, il n'y a pas de casseurs, moi, ça m'énerve. Ou quand les gens ils nous disent « Ah, trop bien, parce que vous, Camille Justine, il faut passer vos messages avec humour. » Mais ça m'énerve qu'on soit obligé de mettre de l'humour et mettre un truc forcément de prendre par la main pour dire « T'inquiète, c'est pas pour te blesser, je vais te faire un peu rigoler dedans. » Ça me vénère, en vrai,
de
fond, j'en ai tout
cassé. De l'humour, ça blesse quand même.
Oui,
les mecs.
Et même avec de l'humour, des fois ils sont pas contents. Oh,
imagine pour l'enjeu du racisme. Moi par exemple, on a parlé de notamment de l'islamophobie.
Total,
oui, et c'est surtout que en fait, tu vois, le préjugé racial qui existe sur les personnes donc qui vivent en banlieue majoritairement des Noirs et des Arabes, c'est que ce sont des racailles violentes.
Bien sûr.
Et moi je me rappelle 2005. Pour moi, c'est ma vraie conscientisation politique, c'est 2005 les émeutes entre guillemets en banlieue. Donc là, moi j'appelle ça de la violence urbaine parce que c'est de la violence sociale en fait, comme celle des gilets jaunes.
Ouais,
c'est de la violence revendicatrice. Ouais. Et regardez comment on les avait traités à l'époque en disant c'est sauvageons, on va les nettoyer au Karcher. Enfin la fameuse phrase de Sarkozy qui nous est tous restée en tête. Moi j'ai grandi avec ça et je me dis mais nous par exemple si je sais pas si un jour les quartiers populaires se soulèvent tous ensemble et disent on va faire valoir nos droits, je sais très bien qu'on va leur répondre on l'a vu déjà à Liverpool il y a quoi une semaine et demie, on va leur répondre par des bombes lacrymo, on va leur répondre par des violences policières, par peut-être des viols comme l'affaire Théo, enfin tu vois il va y avoir une réponse de violence parce qu'on considère que ces individus sont violents en soi et qu'ils méritent toutes les violences physiques.
Alors qu'ils répondent à une violence déjà.
Tu vois, donc déjà, il y a une impossibilité dans le combat antiraciste, tu vois, d'être dans la rue massivement, de faire valoir nos droits, parce qu'en fait, tu sais très bien que la violence policière en face, elle va être désastreuse.
Ouais.
Tu vois,
il y a un
héritage colonial là-dessus.
Oui,
quoi.
C'est parce que parce que du coup, ce qui est important, c'est ça, c'est que le peuple français, le peuple n'est pas du côté à ce moment-là. Enfin, tous les médias, enfin tout ce qui circule comme info est fait pour que le peuple, enfin la ménagère ou
l'opinion
publique chez elle, devant sa télé, se dise ah bah voilà, les banlieues, je voulais pas le dire, mais bon effectivement ils sont violents. Et du coup ils t'enlèvent le droit à la violence parce que le peuple n'est pas de ton côté. Enfin c'est ça qui a presque marché. Enfin un truc qui a pris un peu au moment des gilets jaunes, c'est qu'il y avait ce truc de comme c'était des blancs, enfin, c'est malheureusement comme il y avait pas la question, il y avait pas la question raciale, et du coup là il y a eu des gens, après ça a un peu bougé, ça je sais, tout le monde n'était pas de ce côté-là, mais il y avait un peu les gens qui se disaient bon bah c'est des gens un peu comme nous qui vont se battre, et du coup s'ils jettent des pavés je peux être d'accord avec eux. Mais d'un coup, dès que c'est des gens racisés, tu leur enlèves le droit à la violence, parce que il y a tellement de racisme, il y a tellement de passé colonial, que du coup,
et tu considères qu'on est des sauvages en fait, c'est ça le
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est que tu vois, on parle d'ensauvagement
si
quand on parle des Arabes et des Noirs.
Si tu le considérais pas, tu te dis, bah là, j'ai plus le choix, je suis obligée de me dire que c'est des sauvages. Il faut faire l'effort d'aller comprendre qui a été violent à la base, quelles sont les violences qui ont enchaîné, enfin, qui ont entraîné. Mais ça, c'est un effort que. Bah, qu'on ne fera pas, enfin que le peuple français pour la grande majorité n'est pas prêt à faire, mais aussi parce que c'est pas ce qu'on leur montre.
Impossible.
Aucunement, ils voient ça nulle part dans les médias, ils apprennent pas ça à l'école. J'en parlais dans un autre podcast, mais tu vois, on nous enseigne pas la guerre d'Algérie du point de vue de ce qui s'est vraiment passé. Enfin, tu vois, on nous enseigne la guerre d'Algérie, et dans la classe, la majorité ont des grands-pères qui y sont allés et qui sont racistes. Enfin, tu vois ce que je veux dire,
carrément.
Qui ont une vision complètement biaisée du truc. On nous enseigne pas les choses, mais enfin, effectivement, la responsabilité coloniale de la France, est complètement sous le tapis, et ça changerait beaucoup de choses si on
elle
en avait
pas
conscience.
Dans les livres d'histoire, voilà. À cette heure-ci, je pense, non.
Non, non, ça pas. Mais ça y est de moins en moins. Surtout.
Si, c'est un encadré, ou c'est puis c'est ce qu'on leur a apporté de bien, c'est qu'on leur a fait
un encadré sur le côté. Ouais.
Ça y est de moins en moins parce que vous savez, il y a la menace séparatiste entre guillemets, comme ils appellent ça, et donc les études décoloniales, par exemple, en France, sont très mal vues. Donc il y a même pour les chercheurs, je veux pas parler en leur nom parce que je connais pas non plus assez le sujet, mais il y a une impossibilité de traiter ces sujets-là dans la recherche universitaire, dans la en fait, c'est des sujets qui ne sont pas qui sont traités comme communautaires. En fait, on dit que en fait, c'est des sujets trop revendicateurs, trop communautaires. Donc, en fait, personne n'a jamais fait de manière nationale, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent, mais de manière nationale, comme ça, un travail de décolonisation aussi de l'histoire. Et c'est tout ce que font. Il y en a plein. Il y a Maboula Soumaoro, il y a Kaoutar Archi, il y a plein d'universitaires qui ont fait des livres qui sont déjà plutôt intimistes et qui sont très très bien, et en même temps tu te dis que en fait ça n'arrive pas dans l'espace public général, c'est-à-dire que ça reste dans des endroits où les gens sont plutôt en fait d'accord avec ça et ont envie de ce savoir-là. Donc en fait, quand tu lis par exemple Maboula Soumaoro, quand tu lis Kaoutar Archi, en général c'est que tu es plutôt intéressé par ces sujets et que tu considères que le savoir qu'elles ont à t'apporter va te faire du bien, à la fois
pour
moi
en
tant que femme, bien sûr. Mais ça, c'est tout l'enjeu médiatique. C'est pour ça qu'on a parlé du métier de journaliste juste avant. C'est-à-dire qu'il y a aussi, comme on l'a dit, il y a des privilèges politiques, il y a des privilèges médiatiques, en fait. Si c'est aussi impossible que ça de faire valoir des discours dans les médias, c'est parce que ça va avec la politique. C'est-à-dire que si on avait un pays de gauche, les médias seraient de gauche aussi. Enfin, c'est aussi bête que ça, mais ça va ensemble.
Oui,
l'opinion publique sert la politique et les médias travaillent autour et pour l'opinion publique.
Et d'où l'intérêt d'avoir des profils différents, en fait. Et quand on parle de ce fameux homme blanc cis valide de plus de 50 ans et qu'on en a assez, c'est aussi parce qu'en fait, il est hégémonique, c'est-à-dire qu'il est de partout et qu'on n'a pas une pluralité de vision. C'est aussi pour ça qu'il faut à un moment intégrer à tous les postes de pouvoir des femmes, des personnes issues des minorités, des handicapés, des personnes racisées, des personnes transgenres, des personnes LGBT. C'est parce que quand t'arrives avec ton histoire et avec tes valeurs et avec tes trucs qui te font mal au ventre, comme je disais tout à l'heure, et que du coup tu vas creuser dans cette direction-là. Et si on continue de ne laisser que ces hommes blancs au pouvoir et dans les trucs décisionnels, ils vont pas aller. La vérité, c'est qu'en fait, on pourrait attendre qu'ils s'intéressent. Mais ils le feront pas. Eux, ils vont pas aller lire le livre de Maboula Soumaoro. Ils vont pas s'abonner au compte Instagram Décolonisons-nous. Ils en ont rien à foutre, tu vois. Ils vont pas aller le faire. Donc du coup, il faut que ce soit d'autres gens. On n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'on les balaye. On en revient toujours à ça.
Ouais, grave.
C'est là où les réseaux sociaux. Moi, c'est pour ça que j'ai, après avoir travaillé dans des médias plus classiques, donc j'étais pigiste. J'ai toujours été pigiste, sauf pour France 4. C'est aussi pour ça que je parle de précarité dans le métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je le dis même dans Illégitime, c'est-à-dire c'est un média pour... c'est un métier pour moi qui est bourgeois, le journalisme, parce que en fait, pour continuer dans le temps, il faut que tu aies un patrimoine familial qui te permette de continuer, parce qu'on est sous-payé, c'est abusé, si je vous dis les montants de des piges, c'est hallucinant. Les misères pour lesquelles
travaille. On a déjà mis un ou deux pieds dans le...
C'est...
ou deux, ou plus. Dans le, dans le journalisme.
Bah, vous êtes deux, donc.
Et on a vu à quel point il n'y avait pas de
suivi. C'est hallucinant. Mais c'est hallucinant. Et tu fais des charges de... Enfin, t'as une charge de travail monstrueuse, ouais. et t'es sous-payé. Donc moi, pour compenser, je me suis dit, je vais travailler pour des médias, ou en tout cas, je vais défendre des sujets qui sont utiles pour moi et qui font sens. Je me suis dit, c'est pas l'argent que je vais chercher, c'est le sens. Et donc j'ai travaillé notamment pour Loupsider, où j'ai fait plein d'enquêtes sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, je croyais que c'était un contre-pouvoir. Je ne sais pas si ça suffit encore, parce qu'il faut le voir sur les années qui vont suivre, tu vois. Mais pour moi, c'est un pouvoir Internet. C'est à double tranchant, parce qu'il y a aussi le cyberharcèlement. Mais pour moi, c'est aussi une manière de faire passer nos idées, même si, alors on le sait, il y a de la censure sur Instagram, il y a plein de problématiques. Pour moi, Internet, c'est un outil pour faire passer nos idées, pour informer, pour faire de la pédagogie, pour même, tu vois, ce que j'ai appris, moi, grâce à Loupsider, c'est à faire des vidéos extrêmement virales, tu vois. Donc, il y a plein de sujets comme ça qu'on a fait monter sur les violences policières, sur les violences faites aux femmes, violences sexistes et sexuelles. Sur les violences sexistes et sexuelles, on ne dit pas violences faites aux femmes, c'est des violences sexistes et sexuelles. C'est important la manière dont on parle des choses. Mais en tout cas,
violences masculines.
Ouais, j'avais envie de dire ça.
Ouais, aussi.
J'aimerais qu'on les appelle comme ça.
Disons violences masculines. Mais en tout cas, oui, parce qu'on dit toujours que c'est la femme. On met toujours sur la femme.
On ramène toujours à la femme.
C'est exactement. Ouais. Alors que quand on dit les hommes, tout le monde se crispe.
Ouais, mais il y en a bien qui les causent, hein, ces violences. Hein,
si on mais dit nous, violences faites aux femmes, on ne dit pas not all women.
Oui, donc je disais que Internet, c'est un formidable outil pour faire de la pédagogie. Il y a tellement de comptes, j'ai envie de tous les citer. Préparez-vous pour la bagarre. Décolonisons-nous, journalistes. Il y en a tellement, je sais, je vais en oublier. Mais il y en a beaucoup, et je m'en bats le clito aussi, Camille. Il y en a plein et qui font un travail génial là-dessus, mais la contrepartie, c'est qu'il y a beaucoup de censure, il y a beaucoup de fatigue aussi émotionnelle, il y a beaucoup de cyberharcèlement. Moi, c'est un sujet que, parce que j'en parle un peu dans mon deuxième livre, qui est du coup un roman, mais inspiré de, en fait, pour faire mon prochain livre, je fais plusieurs reportages que je vais transformer en fiction. Donc, je m'appuie sur des faits réels pour raconter des sujets bien particuliers. Je vais essayer de pas trop en dire parce que mon éditrice, elle va me tuer. mais en tout cas, c'est un des sujets majeurs du deuxième roman. Je pense que c'est pas une surprise si je le dis, c'est le cyberharcèlement. Déjà parce que j'en ai subi en tant que femme publique, comme toutes les femmes publiques, et aussi parce que moi, il y a quelque chose qui me... Et vraiment, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup pleuré et qui m'a beaucoup touchée et qui me touche encore beaucoup, c'est que je sais qu'il y a des étudiantes qui se tuent. Il y a des collégiennes, des lycéennes qui se tuent ou qui sont tuées. Moi, il y a une affaire qui m'a beaucoup marquée, c'est celle d'Alisha à Argenteuil, qui avait été poussée dans l'eau par ses camarades après qu'il y ait eu des photos intimes d'elle qui étaient dévoilées sur Snapchat. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe chez les adolescents. Je crois tu vois, notre génération, on a grandi avec un téléphone à la main, on a grandi avec Skyblog, MSN, tout ça. C'était plutôt gentil, hein, en
réalité. Gentil, on a tout découvert, en fait.
Oui, mais c'était gentil à l'époque, oui, vrai, tu vois.
On a été aux prémices du truc, c'était tranquille.
Et on était très protégés. En fait, un peu par nos parents, puisque tout était tellement nouveau qu'ils le regardaient vraiment avec un œil. On était timé, tu vois, tu vas que une heure par jour.
Et puis tu vois, du MSN, ça allait pas plus loin que tes trois potes de ton lycée.
C'est ça.
Ça allait pas plus loin.
C'était pas public, en fait.
Et même ton Skyblog, en fait, en réalité, c'était ta ville qui te suivait, enfin, les deux, trois, enfin, ta ville, j'abuse, parce que moi, c'est parce que j'avais une ville de 10 000 habitants, donc c'était facile, tu vois. Mais tu vois, il y avait un truc où il est plus cocon, plus familier.
Moi, je tiens à dire quand même que mon premier cyberharcèlement a été avec Skyblog, parce que j'ai été Skyblog de la semaine. Donc, du coup, c'est un Skyblog qui a tourné dans toute la France. Et du coup, j'ai eu mon premier cyberharcèlement à ce moment-là. J'avais un Skyblog qui s'appelait bêtedecolo.skyblog.com avec mes copains et mes copines, et du coup on se faisait méga harceler, mais j'avais 13 ans et je recevais des grosses putes sous toutes mes photos. J'étais là, grosse quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon père, il avait appelé Skyblog pour faire couper mon Skyblog et tout machin. Mais voilà, c'était mon premier cyberharcèlement, donc c'était vraiment les prémices
de dès que ça devient massif,
voilà,
dès que ça devient
massif et que ça aille plus loin que tes potes,
dès que c'est public,
et surtout c'est que ça marche. C'est, en fait, on le sait, il y a un biais de négativité et de positivité, surtout de négativité et de positivité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout ce qui est partagé de manière négative va générer beaucoup plus de likes, de partages, donc tout ce qui est trash cartonne sur internet, tu vois. Et c'est
bad buzz, bon buzz.
Et c'est aussi tout le problème du trauma porn, c'est-à-dire que c'est moi aussi, je me suis questionné à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine de faire 15, 16 vidéos de violences policières et de violences faites aux femmes? Est-ce que ça vaut la peine de faire 15 vidéos de violences policières ou de violences sexistes et sexuelles? Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour que les gens comprennent? Est-ce que, tu vois, il y a aussi un truc parfois de trauma porn, c'est-à-dire de faire du trash pour que ça marque les esprits, mais du coup on fait rien avancer parce que vidéo trash après vidéo trash.
Il aurait suffi juste de la vidéo de George Floyd aurait arrêté le racisme.
Oui, ou de Michel Zeffer.
Enfin, non, aurait arrêté, oui, ou de Michel, aurait arrêté les violences policières. Ouais. Or, ça n'est absolument pas le cas, non. Et on n'a toujours rien qu'à changer au niveau systémique.
Bien sûr.
Aussi, dans l'autre sens d'ailleurs, de arrêter de filmer les flics du coup.
C'est ça.
Voilà, oui, c'est vrai, c'est mieux pour pas avoir de violences policières. Filmons plus les violences policières.
Parce que c'est des indignations donc, de très courte durée.
C'est vrai que ça
fait.
Ne. Effectivement, ça.
Tous les
ça
jours,
ne...
il y a une nouvelle indignation.
Si ça suffisait. Durée, et du coup, ouais. Comme ça ne suffit pas, à la place, ça devient, comme tu dis, trauma porn. Et surtout, de montrer sans cesse les mêmes corps et les mêmes profils qui se font tabasser au bout d'un moment.
Bah, c'est une violence pour les concernés.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de femmes noires ou d'hommes noirs qui ne peuvent plus regarder des vidéos de violences policières. Ouais, ouais. Moi, de toute façon, même depuis Zia Debouna, en réalité, moi, c'est des sujets où. Quand je les traite, oui, déjà, ça. Je montre jamais les images. C'est-à-dire que je fais du témoignage face cam, mais donc c'est en plus.
En fait,
plus,
et ça marche pas non plus sur les blancs. Enfin, si là, je résume au côté couleur, enfin couleur de peau en tout cas, ça marche pas non plus sur les blancs parce que eux, ils se disent, ça peut pas être mon fils. C'est pas un enfant blanc qui se fait tabasser.
Oui,
ça peut pas être mon père. C'est pas un homme blanc tranquille. Et en fait, du coup, c'est toujours donc en fait, ça rend dans tous les cas, c'est-à-dire soit ça tu ressembles à la personne, enfin tu t'identifies en tout cas à la personne, et dans ce cas, c'est extrêmement violent. Soit tu ne t'identifies pas parce que t'as pas la même couleur que cette personne.
Du coup, c'est pas ton problème.
Et au pire, t'es raciste en disant bah voilà, toujours en même temps, ouais, c'est pas pour rien que c'est toujours. Hein. Soit tu te dis bah, ouf, c'est pas ça peut pas être moi, ça peut pas être mon père, ça peut pas être ma petite sœur.
Et tu as conscience de ton privilège.
Et voilà.
Mais ouais, c'est ce que je disais. Moi, c'est un sujet qui me En fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte tous, que ce soit tu vois ma génération, les parents, de ce qui est en train de se passer chez les adolescents. Tu vois, je parlais de Alisha par exemple, et son histoire m'a beaucoup touchée. Et je suis allée sur place à Argenteuil quand il y a eu la marche blanche pour elle et tout. Et je discute avec des copines d'elle de l'école ou du quartier, je me rappelle plus exactement. Et je vois que elles ont, vous savez, un cadre avec plusieurs photos et un texte en hommage. Et je me suis rendu compte, je l'ai encore la photo. Je me suis rendu le livre parle de là en fait parle de ce moment-là. Je me suis rendu compte que sur les photos, il y en avait aucune photo sans filtre. C'est-à-dire qu'il y avait soit une photo où elle avait la couronne de fleurs de Snapchat là où c'était les yeux bleus d'Insta et donc il y avait plus aucune photo d'elle où elle était juste elle-même de son vrai visage. Et elle avait 14 ou 15 ans je crois Alisha et je me suis dit il y a toute une génération qui grandit en plus. Alors il y a le double enjeu de mauvaise image de soi, donc mauvais reflet par rapport au filtre, à la chirurgie esthétique massive, etc. Et en même temps, qui vit le cyberharcèlement et le harcèlement quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont perdantes coûte que coûte. Et moi, ça m'angoisse beaucoup. C'est-à-dire que c'est question de... C'est pour ça que je suis très sensible à ça, au cyberharcèlement. Quand ça arrive à des femmes, quand ça arrive à des personnes, ça me touche beaucoup parce que j'ai conscience que ça peut mener à la mort, que ça peut mener au meurtre et ça peut mener au suicide. Et d'avoir normalisé ça. Je pense que pour moi, la priorité du quinquennat à côté des violences sexistes et sexuelles, pour moi, ça fait pas. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, on régule aussi Internet. L'année dernière, je crois qu'il y avait eu, médiatiquement, en tout cas, on a parlé de 5 suicides d'adolescentes. Il y avait Dina, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, Dina, sa maman avait beaucoup témoigné. Oui. Et on prend l'habitude comme ça de les voir débarquer dans le débat public. C'est comme les féminicides. Hein. On prend l'habitude qu'il y ait des femmes qui soient tuées comme ça à peu près tout le temps et on se dit jamais. Mais c'est un sujet massif de société, il faut qu'on le traite. Et moi, vraiment, il y a... Parce que nous, je me dis, on est un peu immunisés, on a connu Internet un peu à la cool. Le cyberharcèlement, même s'il peut nous blesser, être une charge mentale, etc., on arrive à passer outre. C'est-à-dire qu'on ne se définit pas par rapport à ce qu'on reçoit. Il y a des gens des adolescents ne sont pas armés.
Qui grandissent direct
là-dedans. Voilà. Ouais. Et la haine que ça provoque, c'est-à-dire qu'ils grandissent avec cette idée que la haine est normale. Moi, ça m'inquiète, en fait. Ça m'inquiète que ça soit aussi peu visible, parce que nous, on est dans nos cercles, hein, vraiment, sur Instagram. On connaît comment marche l'algorithme. Moi, je vois que les contenus que j'aime. Donc, je vais voir Camille et Justine. Je vais voir l'autre Camille de Je m'en bats le clito. Je vais voir Rokhaya, Lorraine. Enfin, tu vois, je vais avoir un fil plutôt cool. Là, quand je me fais cyberharceler, je bloque mes DM, je reçois plus rien. Tu vois, il y a un truc où ça, moi, ça va, tu vois. Et puis, tu te dis, mais quelqu'un qui a 14 ans, en fait, c'est pas... Et en plus, on sait...
C'est pas les mêmes enjeux, ouais.
Non, et puis là, moi, je dis un truc, je sais pas si j'ai raison. Je sais pas si c'est une bonne analyse, mais j'ai envie de la dire quand même. Mais je pense que la télé-réalité, y est pour beaucoup dans la normalisation de la haine sur Internet. Dans le sens où... j'ai rien contre les candidats, j'ai beaucoup contre le système de télé-réalité, ouais. Parce qu'on connaît, ça se base sur les mêmes biais que partout.
La prod.
Hein. Voilà. Et en plus, beaucoup de candidates ont le courage de dénoncer ce qui se passe. Ouais. Donc les violences
c'est un système
sexistes.
De domination comme
à comme partout,
échelle, en fait.
Ouais,
c'est
oui.
Une mini vision de la société.
Oui, c'est ça. Ouais, à grande échelle même, puisque oui. C'est sur des chaînes publiques.
Oui. C'est très regardé et c'est des comptes très suivis, tu vois. Ouais. Et je me rends compte, tu vois, souvent que c'est des gens qui règlent, tu sais, leurs conflits en selfie. De lui, il m'a dit ça, lui, il m'a fait ça, elle m'a trompé. Et en fait, les ados font la même chose.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est normal. Sauf qu'en fait, c'est pas... Dans la vraie vie, dans la rue, ce serait illégal. Tu vois, il y aurait des procès pour diffamation, pour harcèlement moral. Tu vois, il y aurait des choses qui... Mais en fait, sur Internet, vu que c'est la norme, et je pense que ça a même infusé dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire que même pour les gens qui ne regardent pas les télé-réalités, c'est devenu tellement normal de pointer, tu sais, du doigt telle ou telle personne ou tel compte, qu'en fait, on ne se rend pas compte que dans la rue... En fait, dans la rue, c'est comme si toi, par exemple, Camille, tu marches dans la rue et je te dis « Elle, là !» C'est une méchante. Gentille. Et que là, du coup, il y a 100 personnes qui accourent vers toi. Méchant, tu es une méchante. C'est ça, en fait, Internet. C'est ce qui se passe avec Internet. Moralement, c'est comme ça qu'on le vit.
Et nous, je pense qu'effectivement, j'ai l'impression que notre génération, comme on a connu pas Internet et Internet, du coup, on peut, même si on est aussi devenu accro et que ça fait partie vraiment de nos vies, etc., mais on peut quand même dissocier, je crois, qu'on peut dissocier la vraie vie, entre guillemets, des réseaux. Mais quand... les réseaux sont présents dès le début de ta vie à 100% et que il y a plus de t'attends pas 14 ans pour avoir un téléphone, c'est pas possible. Enfin, je pense honnêtement aujourd'hui, je pense pas que ce soit possible. Ça fait tellement partie que il y a plus tellement de dissociation. Donc je pense que les façons d'agir peuvent avoir autant de poids les façons virtuelles que quand on se parle en vrai. Et nous, totalement. Je pense qu'on est peut-être un tout petit peu plus préservés parce qu'on sait qu'il y a eu une vie sans ça.
Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont un compte Instagram avant d'être nés. Donc,
voilà, et je pense que quand on faisait les blagues des détox digitales, tu vois, ce truc de te dire « je vais couper mon téléphone pendant une semaine », je suis pas sûre que tu puisses le faire aujourd'hui quand t'as 14 ans.
Tu fais une détox digitale ?
Ouais, je fais une détox.
Mais je pense que nous, on peut le faire parce qu'on sait que... j'allais dire qu'une autre vie est possible.
Bah oui, c'est vrai. Bah non, mais c'est vrai. Mais la vie sans Internet est possible.
Et je les blâme pas. Je le dis pas en le moquant de vous pouvez pas vous séparer de votre portable. Je pense que la vérité, ils peuvent pas. La vérité, je pense qu'ils peuvent pas.
Ah bah oui, bien sûr. Mais Brut a fait un documentaire là-dessus où il filme des ados qui essayent de. En plus, surtout que nous, on a connu.
Ils ont trop de choses dessus. Et ils ont connu en plus des confinements où ils avaient leur. L'école était dessus.
Et surtout que nous, on a connu. À l'époque, il devait y avoir quoi 2-3 réseaux sociaux. Et en même temps, tu vois, il y avait Skyblog, MSN. Il y en avait pas.
Après il y avait Facebook
et Chatroulette
et en plus on passait de l'un à l'autre, c'était pas en même temps. Là t'as tout en même temps, t'as Facebook, Insta, Snapchat, TikTok, tu as tout en même temps, donc en fait il y a plusieurs façons d'être cyber.
Tu bouges un petit peu ton doigt et bim, t'as le réseau d'après.
Tout le monde fait ça toute la journée, c'est-à-dire tout le monde va je vais regarder un peu là, je vais regarder un peu là, et puis les 4 heures du matin t'as toujours pas dormi, et tout le monde a la même chose. Ah non, mais bien sûr, mais c'est juste que déjà nous ça nous atteint, enfin je pense que cyberharcèlement ça atteint tout le monde, c'est fait pour ça, c'est fait pour t'atteindre. Mais on a, comme je disais, et comme tu le disais aussi, on a le recul pour se dire bon ok, c'est Internet, demain ils seront passés à autre chose. Mais ça amène quand même au suicide et à la mort de plusieurs, et en général, c'est des filles.
Au TCA, suicide et la mort, effectivement, c'est des trucs les plus graves.
Bien sûr, il y a des TCA, mais il y a tellement de choses.
Entre guillemets, moins grave, tu as de la dépression, des TCA,
mais tu as tellement de choses.
Un manque de confiance incroyable en soi, le mal-être, la chirurgie esthétique à des âges pas
mais même les filtres, en réalité. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais accro à ce truc-là.
On se bat pour l'acceptation de soi, le body positive, et en fait, on nous mange des filtres. Et moi, maintenant, je crois que j'essaie de le faire systématiquement quand je regarde la story d'une meuf que je suis. Je regarde en haut, là, c'est écrit en haut, il y a un filtre. Et je regarde très souvent. Et en fait, très souvent, il y a un filtre.
Mais oui.
Mais très souvent. Et pas juste le pari, tu sais, de quand tu glisses juste une fois pour être en mode pari. Mais sinon, j'ai trop le front qui brille.
Non, mais on l'utilise tous, celui-là.
Tu vois, pari, je me dis, bon, allez, d'accord. Ouais, c'est juste.
Même ça, on dit.
Ouais, c'est vrai.
On le dédiabolise en mode oh, ça va celui-là, mais lui
il est pas marqué.
Je suis désolée, mais c'est un des pires. Je l'utilise aussi, attention, on est ensemble, il y a pas de souci.
Ah, c'est pire parce qu'on voit
débat des filtres Instagram.
Non, mais c'est pire parce qu'il fait genre il y a pas de filtre. Il lisse la peau et c'est un des trucs les plus c'est un des trucs les plus contrôlés via les filtres, c'est la peau. J'ai vu une meuf qui a fait une vidéo il y a pas longtemps où elle filme en très gros plan sa peau. Sa vidéo est très très drôle. Ouais. Elle s'appelle, c'est trop drôle, genre. Et elle monte sa peau en grand plan. Et elle est là, juste pour rappel, là, il y a des pores, ça respire et tout, machin. Et elle remonte toute sa peau. Faut que je vous la montre après, elle est vraiment drôle, cette meuf.
Mais c'est vrai.
Et j'ai vraiment fait, ah ouais, sa peau, là, en gros plan, comme ça. Bah oui, c'est la mienne. Bah oui, mais c'est... Moi-même, je suis capable d'oublier.
T'as raison, mais comme...
Même non, les pores, c'est ce qu'on disait.
Moi, si je fais ça, je fais une story et on voit mon grand front qui brille, là, parce que j'ai le front qui brille, parce que, enfin, surtout en vidéo,
tu réfléchis beaucoup.
Les gens, ils vont pas m'écouter. En vrai, il y a plein de gens qui vont pas m'écouter. Enfin, ils vont dire. En fait, ils vont prendre. En vrai, moi, quand je mets ce filtre, c'est pas tant pour me sentir plus belle que parce que la vérité vu que notre physique c'est trop important pour les gens, si on n'est pas, si on a un truc qui, tu vois, t'as un bout de, du rouge à lèvres sur la dent, vraiment, vas-y, fais une story où tu parles d'un propos archi stylé de ouf. Qui va, ils vont dire quoi les gens? Déjà juste quand t'écris mal un mot, quand t'orthographies mal un mot dans une story, ou quand tu prononces mal un mot, ils t'envoient que ça les gens. Donc en vrai, toutes les excuses vont être bonnes. Donc j'avoue que ce filtre-là,
moi, effectivement, voilà, toutes les excuses sont bonnes.
C'est
à la fin. Et ouais, les filtres, c'est un sujet. Hein. Putain, c'est...
En fait, remettez-vous du physique des femmes, bah, du physique des gens, mais du physique des femmes, et on avancera beaucoup plus vite dans nos propos.
Et tu vois le fait que de poster en no make-up, ça soit devenu un sujet. Moi, je sais que j'ai dû passer par ce truc-là, parce que moi, j'assume totalement, et à un moment, j'étais accro au filtre. J'étais incapable de poster une story, surtout les jours où je n'étais pas maquillée. Et avant, je me maquillais beaucoup. Maintenant, j'ai réduit. Bon, là, vous avez pas de chance. C'est au jour où je me suis pompée l'op sur la tête. Mais j'ai vraiment fait. Et c'est fou parce que c'est toute la déconstruction personnelle où j'ai fait un effort sur moi. C'était un effort de pas poster avec des filtres. Et de même, tu vois, poster ta tête. Surtout quand t'es une personnalité publique, en fait, parce que tu vas être moquée. Donc, te poster sans make-up,
que ce soit tes propos qui comptent.
C'est ça.
Et si tu leur donnes autre chose.
C'est ça. Parce qu'en réalité, moi, en tout cas, dans mon intimité, je m'assume totalement. Sans maquillage ou avec maquillage, je me trouve pas laide, en fait. Parce que je m'aime bien dans les deux. Moi, j'ai un truc avec les deux me vont, tu vois. Et comme la majorité des femmes en réalité, c'est-à-dire qu'on l'a vu pendant le confinement, vous savez que beaucoup mettaient du rouge à lèvres sous les masques. Et qu'en fait, tu sais, la phrase sur le make-up, c'est vous faites ça pour plaire aux hommes. C'est alors non, juste parce qu'on kiffe en fait, tu vois, et on s'en fiche un peu que vous voyez ou pas. Donc, moi, j'ai un peu ce rapport-là au maquillage. C'est moi, ça m'amuse juste de mettre des choses sur la tête et de me décorer en fait. Mais c'est vrai que tu te rends compte que le fait de poster pas maquillée, et tu vois, là, j'ai fait une interview aussi il y a pas longtemps où on me filme et je suis pas maquillée, j'ai pas d'anti-cerne. Bah, j'étais cerne sur la vidéo et c'est une des premières remarques qu'on m'a faites.
Bah oui, voilà, c'est ça qui est chiant.
Tu vois, c'est que...
Fait, si on se maquille en fait et si les meufs, elles répondent à tant d'injonctions, bah, c'est que la société les fait se regarder tellement et les regarde tellement et les commente tellement qu'à un moment, bah, on en vient à se refaire les lèvres et en plus après vous continuez à les pointer du doigt parce qu'on dirait deux saucisses.
Oui, mais c'est plus il y a des meufs qui vont faire des interviews avec leur sang anti-cerne.
Ouais, mais elles payent.
Bah oui, mais de toute façon, quand tu innoves un truc qui a toujours été ancré, tu payes le prix. Les premières qui se sont montrées avec des poils sous les bras, elles ont payé le prix fort. Et là, c'est encore un peu le cas, mais nettement moins qu'il y a 5-6 ans. Là, les poils sous les bras, ça commence à être limite périmé comme sujet.
Les meufs,
les meufs font des formes, les vergetures, les machins, et tous les trucs comme ça. Et pourtant, les premières qui posent avec... C'est ouf, hein. Et les premières qui posent avec ces trucs pas acceptés dans la société, bah, c'est elles qui payent le prix, effectivement. Et du coup, si tu dois passer par le prix de montrer ton front qui brille, ouais, ça pique pendant je sais pas combien de stories, on va dire « Ah, mon qui brille !» Et ça fait chier. Mais... Faut qu'on puisse se dé.
Moi j'aime bien. Il faut qu'on puisse se dé, les meufs.
Faut vraiment qu'on puisse se dé, quoi. C'est capté.
J'ai une grande nouvelle pour vous.
Moi j'ai une énorme nouvelle aussi, je sais ce que tu vas dire.
C'est la première fois qu'on fait un podcast sans poser de questions.
Ouais.
Et on n'a pas le temps de choisir des questions.
C'était l'intro la plus longue de l'histoire de nos podcasts.
Mais c'était sûr, mais en vrai, de toute façon, la première fois qu'on t'a connu, on savait, on était là. Mais c'est sûr, on aurait trop de choses à se dire.
Parler.
Ça pourrait durer très longtemps, mais c'est génial. Mais effectivement, on n'a pas de questions.
Et il va falloir arrêter ce podcast, c'est ce qu'on a tout de même.
Il nous reste un petit temps pour que tu nous fasses un petit jingle, parce qu'on va se faire des petits conseils. Conseil top flop culture.
Poum poum chi, ça c'est du beatbox.
Ah, il y a un truc.
Je peux faire que ça.
Mais c'est très bien.
Oui, mais bon, ça suffit.
Moi, je peux rapper après dessus.
Top flop.
C'est Nesrine Slaoui.
Culture.
Je suis avec Camille et Justine. On est à contre-temps et tout, c'est moi.
C'est lourd.
Ah, c'est horrible.
Ah, c'était infect.
Alors, je vous conseille un film qui n'est pas sorti, mais qui va sortir bientôt, qui a été projeté en avant-première à Cannes. C'est le prochain film de Rachid Bouchareb, qui est réalisateur de génie, qui a notamment réalisé Indigène, qui à l'époque avait marqué l'opinion publique avec des changements de loi. Et avait surtout, c'était une belle reconnaissance pour les parents issus de l'immigration. Et donc il boucle sa trilogie, c'est lui qui dit ça comme ça, avec un troisième film. Donc il parle encore une fois de l'héritage de l'immigration. Ça s'appelle Nos Frangins. Et en fait,
il sera sorti quand le podcast sort.
Je pense que ça sera à la rentrée, ça sort pas tout de suite.
Ok, très bien.
Donc ça s'appelle Nos Frangins. C'est un film qui revient sur le décès de Malik Houssekine et aussi de Abdel Ben Yahia, parce qu'ils sont morts la même nuit, mais on a tendance à oublier le deuxième parce que ça n'a pas été médiatisé. C'est un film magnifique qui est tellement contemporain dans ce que ça raconte, parce que ça parle des violences policières, ça parle de la problématique du racisme, de la problématique raciale en France. Et c'est juste un réalisateur génial. Donc en fait, le film est très très bien fait. Et dedans, il y a des acteurs extraordinaires. Il y a Samir Ghesmi qui joue le rôle d'un papa immigré qui est très fort dans le. Qui joue très très bien, une grande justesse dans son rôle.
Il est très bon.
Voilà. Il y a Reda Kateb, forcément.
Ah, je l'adore.
Et il y a la.
Je veux jouer avec lui un jour. Je le dis, je le répète. Je veux jouer avec toi, Reda Kateb, s'il te plaît.
Et il y a une dernière qui est la seule et l'unique. Et je dis ça parce que c'est une amie et que je lui souhaite une très belle carrière, c'est Lina Koudry.
Ah oui.
Voilà, qui joue la sœur de Malik Ousekine dans le film. Et voilà, ils sont. Tous les acteurs, toutes les actrices dans le film sont juste. D'une justesse folle. Et voilà. Et j'espère qu'il sera projeté en salle et surtout très vu, oui. Puisqu'il le sera. Il sera projeté, mais j'espère qu'il sera beaucoup vu. Et qu'on se rendra compte qu'en fait, depuis les années 80, même en réalité depuis les années 70, on a les mêmes problématiques, oui. En France concernant ces sujets. Donc voilà, Nos Frangins, réalisé par Rachid Bouchareb. Je peux vous conseiller un livre que je trouve génial. C'est le livre de Louisa Yousfi, qui s'appelle Rester barbare. Et en fait, elle explique que ce serait tellement compliqué parce que de le résumer, parce qu'elle l'écrit tellement bien et elle a tellement une très belle plume, très précise. Elle parle justement de la question raciale aussi en France, de son point de vue, donc d'un point de vue de femme arabe, mais elle parle très peu de sa position. Et en fait, elle dit que notre seule façon de résister face à un système oppressif qui nous traite comme des sauvages, c'est d'être des sauvages, parce qu'en réalité... Elle prend tellement d'exemples où elle explique que plus on se rapproche du système en tant que personne racisée, plus en fait on est perverti par ce système, plus on devient violent, parce qu'en fait c'est la violence intrinsèque du système de la blanchité notamment qui nous rend violent. Et c'est très dur d'en parler comme ça dans un podcast et d'être concise pour expliquer ce livre, parce qu'il est vraiment, il dit des choses très profondes. Et c'est une, en fait c'est, j'aime bien parce qu'elle dit, elle en fait sa réponse c'est, quand on lui dit les Arabes et les Noirs sont des sauvages, elle, sa réponse, c'est pas de dire non, non, mais on est gentil, c'est de dire oui, et alors ? C'est-à-dire oui, ok, et après. Ouais. Tu vois, c'est pas la même réponse. Ouais. C'est-à-dire
pas un oui, et pourquoi ?
C'est
et
ça, c'est oui, et alors.
Ouais. Bah, comme nous, maintenant, enfin, comme nous, non, mais comme ça peut arriver si on nous dit vous êtes misandre, oui. Et tu trouverais pas ça normal, toi, de détester les gens qui t'oppressent ? Je pense que si. Enfin,
bah, détester. Oui, ou même le vous êtes jamais contente ? Oui.
Non. Mais c'est bien effectivement de retourner ça,
ouais,
en fait.
C'est
toujours être dans la défense, ouais. En fait, bah en fait on va être dans l'attaque maintenant, ouais, finalement.
C'est ça. Et elle prend un exemple en disant qui est-ce qui arrive à rester le sauvage. Pour elle, c'est beaucoup les rappeurs, notamment. Elle prend l'exemple de PNL dans le livre. Elle a une analyse très intéressante sur PNL où en fait ils ont réussi à créer un univers que la famille, où ils disent en fait c'est que les nôtres. Et c'est vous qui venez chez nous. Ouais. C'est-à-dire, on n'essaye pas de devenir des blancs, ouais. On n'essaye pas de devenir des bourgeois. Ouais. On glorifie la culture des quartiers populaires, on glorifie voilà, tout cet héritage-là, tous ces impensés, ces choses qui nous appartiennent. Et en même temps, si vous venez, c'est que la famille. C'est-à-dire, j'adore. On n'est que entre nous.
Vous signez le pacte tu aussi vois. D'accepter.
Ouais. Et on ne veut pas. Et elle parle aussi de Booba, où elle dit, lui, c'est l'extrême sauvage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas prendre les codes d'en face, voilà, de bienséance, de bon comportement, etc. Et franchement, c'est hyper intéressant. Elle parle aussi de Toni Morrison. Elle parle de plusieurs auteurs, de plusieurs artistes qui sont arrivés à rester sauvages. Parce qu'elle cite, ici une phrase de Reda Kateb, je crois, qui dit... il faudrait que je n'ai pas trop de culture, faudrait pas trop que je me cultive, faudrait que je reste barbare, reste sauve, faut que je reste barbare. Grosso modo, c'est le livre de Louisa Yousfi qui s'appelle Rester barbare et qui est très très puissant dans ce qu'elle prône, et c'est très novateur de se positionner autrement face au système raciste.
Trop stylé. Et toi ?
Moi, je peux parfois prôner des trucs un peu denses, un peu deep, un peu machin. Là, je vais déconseiller quelque chose et ça va vous surprendre, car j'étais une fervente fan de Grey's Anatomy. Je faisais partie de celles et ceux qui continuaient à regarder. Bah, vraiment, j'ai défendu. Dire, j'ai regardé la dernière saison, la saison 18. Alors, vraiment, je commencerai d'abord.
Ça fait 10 ans qu'elle regarde Grey's Anatomy.
Bah, 18 ans.
Ouais. Du coup,
il y en a une par an, vraiment.
Ouais,
il y en a une par an. Ça fait 18 ans.
C'est une blague. 18 ans.
Désolée, m'engueule pas. Non, mais bon.
Est-ce que du coup, tu as lu le livre de Jennifer Padgemi ?
Non, mais j'aimerais bien.
Sur Féminisme et Pop Culture, qui analyse super bien.
Bah, en fait, Grey's Anatomy, moi, j'étais. Non seulement je regardais, mais je la conseillais très souvent. Parce que je trouve
encore
que,
dans le dernier encore, podcast, je pense que...
Bah, j'avais pas encore regardé la saison 18. Et la saison 18 est une merde. C'est une catastrophe. Bah. C'est horrible, c'est détestable, c'est mal écrit, il y a plus rien. C'est-à-dire que c'est bien simple, il y a plus rien dans le scénario. Ils auraient dû vraiment s'arrêter à la 17.
C'était peut-être un peu trop.
Oui, mais en fait, ça aurait pu être un peu trop depuis la 9e saison. Oui, et ils ont encore tenu jusqu'à 17, où vraiment...
Ouais,
je dis pas que chaque épisode était un délice. En vrai, les saisons font genre 20 ou 22 épisodes. La vérité, c'est que t'es pas non plus nourri intellectuellement pendant 22 épisodes comme ça, tu vois. Mais c'est pas grave, il y avait vraiment des super trucs. Les questions sociétales étaient archi bien intégrées à l'intérieur. Ça se voyait qu'à la tête, t'avais des femmes noires qui géraient ça.
Shonda Rhimes.
T'avais Shonda Rhimes. Et je pense qu'elle s'entoure aussi d'autres personnes, carrément. Et du coup, c'était vraiment, il y avait des messages forts, archi féministes. Dernièrement, sur les questions raciales, c'était putain, ça y allait. Il y avait vraiment des gens qui disaient, oh, c'est bon, maintenant c'est trop moralisateur. Moi, j'adorais, au contraire, je trouvais ça trop stylé. Mon dieu, la dernière saison. Donc, si vous êtes fan de Grey's Anatomy, que vous avez envie de continuer à respecter cette série, vraiment ne regardez pas à 18, il y a rien, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'ils ont tellement plus rien à dire qu'ils ont cassé tout ce qu'ils avaient mis en place avant pour essayer de revenir. Enfin, non, vraiment, c'est une cata, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Et les gens, je sais qu'ils sont là, genre, bah, fallait y attendre. Non, mais attends, ça fait 17 saisons qu'ils ont réussi à faire des trucs stylés à l'intérieur. Et là, d'un coup, oh, c'est abominable. Je l'ai regardé. Mais chaque épisode, limite, je le mettais, j'étais là.
C'était vraiment la saison.
Oh, trop. Ils font revenir des guests, donc normalement, t'es trop content, parce que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui ont quitté la série. Parce qu'en 18 ans, vraiment, à part Meredith, ils sont trois à être là depuis le début, tu vois. Ils font revenir des guests, mais c'est mal fait, ils ont rien à leur faire dire. Mais il n'y a pas eu de scénariste. Enfin, je crois, si je peux. Je
alors, c'est la dernière saison, qu'il y a pas eu de scénariste. C'est la saison finale.
Le problème, c'est que si ça finit là-dessus, ça aurait été bien de la finir sur celle d'avant, quoi. Mais non, je crois que ça va. Le pire, c'est que je crois que ça peut être re-signé pour une 19, mais elle a pas marché, et je crois que TF1 diffusait et a déprogrammé à l'épisode 17, alors qu'il y en a genre 20 et ils l'ont déprogrammé à 16 ou 17 parce que je crois que les gens ont lâché. Non, c'était vraiment nul.
Tu me donnes envie de reprendre par contre parce que je me suis arrêtée à la 8e.
Mais ça vaut, je vous jure qu'il y a des.
Je suis pas allée plus loin que ça. Il paraît que c'était ouf.
Non, mais il y a des épisodes, en fait, il y a des épisodes qui te mettent les poils, qui gèrent les violences sexuelles, qui gèrent le racisme. Vraiment, mais. Vraiment, t'as des épisodes qui sont extrêmement saisissants. Alors après, ça reste du bullshit rom-com, d'hôpital. Enfin, tu vois, il y a quand même plein. Mais c'est pas grave, c'est addictif. Qui va sortir avec qui Ça reste, moi, j'adore. Enfin, je suis quand même très friande de ça. Mais là, tu t'en fous. C'est-à-dire, dans la 18, tu t'en fous de qui va sortir avec qui. Parce que t'es plus jamais accroché à rien. Enfin.
Ouais.
Mais donc, ouais, en vrai, il y a des. Je sais pas si on peut regarder juste ces épisodes-là ponctuellement. Notamment celui, vraiment, où il y a une femme qui a été violée et qui vient à l'hôpital. Mais. Il y a presque que les femmes qui jouent dans cet épisode. Ils ont presque viré les hommes de l'épisode parce que la meuf est traumatisée, tu vois. Et c'est tellement beau ce qu'ils ont fait. Enfin, je sais pas s'il faut pas regarder.
Faut que je regarde. Je sais qu'il y a eu plein de moments. Mais Jennifer, elle en parle dans son livre. Ouais. Elle explique ces épisodes qui ont été charnières. Même sur le. Je sais plus comment elle s'appelle. Tu sais, la chef d'hôpital, comment elle s'appelle
Bailey.
C'est une femme noire.
Bah oui, Bailey.
Voilà. C'est et l'évolution de son personnage, parce qu'elle dit notamment dans son livre que. Donc, je cite Jennifer Padjemi, qui a écrit Féminisme et Pop Culture, qui analyse justement les personnages dans Grey's Anatomy, notamment les femmes noires. Elle parle de Bailey, c'est ça
Bailey.
Je suis désolée, j'ai arrêté de suivre, donc je me rappelle plus des noms. Mais Camille est là. Et elle explique que c'est un des personnages noirs, en tout cas femme noire, à l'écran qui est complexe. C'est-à-dire qui a le droit à la complexité, qui a le droit d'avoir une vie sexuelle, d'avoir une vie intime, d'avoir une vie de femme.
D'être en colère.
D'être en colère, voilà.
Mais c'est... pas que. Enfin, c'est d'avoir. Ouais. Ouais, d'être agressif. Hein, elle est un peu. Il l'appelle le nazi hein, dans la version.
Et sans que ça soit rattaché à sa couleur de peau, sans, qu'il y ait pas, sans que ça soit pas lié à du racisme.
Elle fait une crise cardiaque, elle a des tocs.
Oui.
Enfin, elle a beaucoup, effectivement, est très riche son personnage.
Et c'est ce qu'elle applaudit, en tout cas, dans son livre. Applaudit, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ce qu'elle souligne, en tout cas, Jennifer, dans son livre, c'est ça, c'est que c'est un personnage noir qui a du pouvoir dans un hôpital et qui a le droit, en plus, à une vie intime complexe, alors qu'en général, les femmes noires, ce n'est pas toujours le cas dans les films. Et surtout, aux États-Unis, ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Je ne vais pas parler au nom, notamment, de Jennifer, parce qu'elle analyse déjà tout ça. Elle parle notamment de Insecure, de toutes ces séries-là qui permettent, en fait, d'avoir des personnages plus complexes qu'on n'a pas, nous, en France,
ouais, c'est ça.
Pas encore en tout cas. Et ouais, et c'est vrai que ça m'avait marqué quand elle avait écrit. Du coup, tu me donnes envie de regarder la. Elle m'avait déjà donné envie, Jennifer, mais là, tu me donnes encore envie remettre à Grey's Anatomy.
La série peut avoir ce que d'autres gens vont appeler un défaut. Moi, je trouve pas que ça en soit un, mais de cocher les cases, c'est-à-dire d'intégrer des personnages transgenres au moment où c'est, où c'est socialement, où c'est
un peu sur le débat
public. Ouais, voilà. Et là, dans la dernière saison. Ça pourrait être intéressant, mais c'est mal écrit, donc en vrai on s'en fout, mais il y a un personnage non-binaire, tu vois, qui est vraiment intégré au scénario et qui a par exemple une vie sexuelle, ce qui est et sans en parler, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'il ou elle, ce qu'elle du coup a dans le slip, dans la culotte, c'est juste un personnage non-binaire qui a une vie sexuelle et qui a une histoire d'amour et basta. Donc c'est c'est ce qui peut agacer des gens en disant ouais, bah, ça c'est juste cocher des cases pour être à la mode. Oui, mais non, bah, en vrai, c'est extrêmement important parce que du coup, ça te normalise des choses et c'est sur une série mainstream, donc c'est quand même assez fort.
C'est toute la question de la représentation. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre ça parce que justement, c'est cette idée de quota qui sont juste là pour cocher des choses, mais en fait, c'est très important la représentation. Moi, je sais que tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que je crée, c'est parce que j'ai pas eu la représentation de femmes qui le font. J'en ai rencontré petit à petit, parce que petit à petit, elles ont commencé à être visibles avant nous, avant notre génération. Mais moi, j'ai cruellement manqué de ça, de cette possibilité de ah, là, tu vois, s'il n'y avait pas eu Faïza Again, je me serais pas dit ah, je peux écrire un livre. Tu vois, si il y avait pas des réalisatrices de documentaires, je pourrais pas me dire ah, peut-être qu'un jour je vais écrire un documentaire. Du coup, je viens de lâcher en info.
On a une vidéo, nous, sur notre chaîne YouTube qui parle justement de la représentation dans laquelle on fait témoigner pas mal de personnes qui parlent de ça et de l'importance de la représentation. Et il y a quelque chose que tu viens de dire qui revient beaucoup dans leur discours, c'est « je n'ai pas eu ce modèle, donc je l'ai fait ». Mais c'est bien aussi de pouvoir se dire « j'ai eu ce modèle et ça m'a donné envie sans avoir la pression d'avoir dû le créer ». Donc c'est vraiment que c'est un manque et c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans leur discours.
Puis nous, c'est surtout, tu vois, à part Rachida Dati qui avait ce côté-là d'assumer son physique, d'être... Tu vois, c'est un truc où moi, je pense que ma génération, pour les femmes maghrébines, on a manqué de représentations complexes, comme elle disait, tu vois, ce qu'on venait de dire à l'instant. C'est-à-dire le fait d'avoir le droit à l'intelligence, le fait d'avoir le droit à la beauté, à la drôlerie, à toutes ces qualités-là, en fait, que beaucoup de femmes ont et qu'on n'arrive pas à mettre en avant, qu'on n'arrive pas à défendre parce que c'est trop. En fait, moi, je parle souvent avec aussi plein de podcasteuses et journalistes et on se dit c'est fou parce qu'en fait, les femmes sont très intéressantes. Ça pourrait être très bateau de dire comme ça. Mais en fait, vu qu'on est victime de plusieurs types de violences et qu'on cache beaucoup nos talents, on cache beaucoup nos envies, on ne se rend pas compte de la richesse que c'est en fait en réalité et qu'il y a tellement de femmes très talentueuses. Et en plus, moi, quand je dis ça, forcément, je pense aussi aux personnes minorisées, aux Arabes et au Nord, parce que c'est la même problématique. C'est-à-dire qu'on nous a tellement dit qu'on était nuls, qu'on a du mal à montrer qu'on est autre chose que nul, en fait. Il y a un espèce de complexe là-dessus qui se joue, un complexe d'illégitimité, c'est pour ça que j'en ai fait un livre. Mais c'est vrai que... on se rend compte... moi, je me suis rendu compte que j'ai manqué. Il y en a eu petit à petit qui ont existé dans l'espace public, mais j'ai jamais trouvé une espèce d'incarnation de à la fois j'assume mon corps tel que je suis, j'assume d'être hyper sexy, j'assume d'être féminine, maquillée, coquette, j'assume aussi d'être en survêtement parfois, et j'assume aussi d'être quelqu'un qui veut créer du savoir, c'est-à-dire de faire des livres, de faire des docs, de faire des choses comme ça. Et ça, c'est la binarité dont on parlait quand on est une femme, c'est-à-dire que soit t'es belle, t'es mannequin, etc., soit t'es intelligente et tu travailles dans un laboratoire. Je mets les guillemets à cette expression parce qu'on a tous entendu. Et tu travailles, tu es ingénieur et tu es caché dans l'ombre en fait. Et je crois que ce soit, qu'importe l'origine ethnique d'une femme, je pense qu'on a toutes besoin en ce moment. C'est ce modèle-là qui nous fait du bien. Enfin, en tout cas, moi, je ne parle pas au nom de tout le monde.
C'est complexe.
Ouais, mais moi, c'est ce modèle. J'ai besoin de gens comme ça et il y en a plein. Et je suis notamment, tu sais, des autrices. Racisées, des autrices surtout noires, anglophones, anglo-saxonnes, c'est-à-dire des États-Unis et de Londres, et c'est fou le rapport décomplexé qu'elles ont avec toutes leurs identités et toutes leurs caractéristiques, c'est-à-dire à la fois d'être, je sais pas moi, en bikini sur Instagram et le lendemain elles vont te poster un texte hyper pointu sur le racisme à Londres dans tel quartier depuis 30 ans. Et moi, parce qu'en fait, je pense que c'est que des codes sociaux, le fait qu'on nous normalise comme ça, tu sais, sur nos corps, sur notre façon de parler, notre façon d'être. Je pense que c'est très codé socialement et que moi, je suis en quête de cette liberté-là de dire on fait des livres et si on veut, on fait des selfies. Je sais que ça peut paraître très bateau de dire comme ça, mais en réalité, ça ne l'est pas. Parce que tu vois, le métier d'écrivain, c'est un métier qui est très normalisé. C'était de la discrétion. Tu vas écrire des livres à la campagne. Tu
es une intello, donc tu ne vas pas montrer ton cul sur Instagram.
Voilà, et puis sur Insta, non, tu maîtrises pas ces choses-là.
Tu n'as même pas, tu as à peine les réseaux sociaux.
Voilà, tu n'as pas, parce que c'est le
peuple. Tu écris à la machine à écrire, avec une plume.
C'est le peuple qui a les réseaux sociaux. Tu veux, c'est le peuple. Nous, on est là pour conscientiser le peuple. Enfin, tu vois, il y a cet élitisme-là. Et moi, j'ai besoin et j'essaye aussi de le devenir. En même temps, je parle beaucoup, désolée, mais j'ai besoin de ce modèle-là. J'ai besoin de femmes qui assument tout ce qu'elles sont, physiquement, intellectuellement, qui sont drôles,
émotionnellement.
J'ai besoin qu'on brise toutes les barrières sociales.
Et en fait, on a toutes besoin de ça. Enfin, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que c'est en train de bouger en ce moment, et c'est ce qui fait qu'on est suivi et qu'on est suivi par 90% de femmes aussi, en fait, dans nos réseaux respectifs, j'imagine. Enfin, Ça veut dire qu'il y a besoin, il y a fort besoin de ces modèles-là parce qu'on a grandi en nous mettant en compétition les unes les autres et que là, on doit aussi déconstruire ça en disant non, en fait, on s'aime aussi les unes les autres et on grandit ensemble les unes avec les autres.
Et on a plein de trucs à raconter.
Oui.
Et la preuve, regardez, c'est combien de temps qu'on parle là-dedans.
Ouais, ça fait 1h25.
On voit voilà.
Un truc à raconter. Grave. Ouais, on va mettre un terme à ce podcast. Ça va donner envie d'en faire d'autres.
Ouais, carrément.
Et ça de repapoter là. Vas-y, on a raconté trop de trucs. Ouais. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.
Ça nous a fait trop plaisir. Et voilà, si tu peux dire un petit merci bye avec nous pour conclure, c'est notre gimmick de fin.
Oui, merci, bye.
Merci, bye.
Merci, bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.